Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Gérald Darmanin annonce porter plainte contre Philippe Poutou qui affirme que la police tue et qu'il y a une véritable violence policière dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur juge que ses propos sont insultants et indignes d'un élu de la République. Il compte, à travers cette plainte, défendre l'honneur de tous les policiers. On entendra la colère de ces derniers qui refusent de se laisser ainsi traîner dans la boue. Un mort et deux blessés dans une fusillade à l'arme lourde à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Sans doute un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Des cartouches de Kalachnikov ont été retrouvées sur place. La victime était âgée de 20 ans. Un crime abominable à Agde. Une institutrice à la retraite a été retrouvée décapitée à son domicile. Il n'y a pas de traces d'effraction dans la maison. C'est son fils qui a donné l'alerte alors qu'il était sans nouvelles d'elle. La piste terroriste n'est pas privilégiée par les enquêteurs. Les commémorations, un an après la mort de Samuel Paty, la minute de silence prévue en mémoire de cet enseignant d'histoire-géographie assassiné par un terroriste islamiste à Conflans-Sainte-Honorine, sera-t-elle bien organisée dans tous les établissements scolaires, comme l'a affirmé Jean-Michel Blanquer? Eh bien en fait, ce temps d'échange ne sera pas obligatoire, confirme l'Éducation nationale. Est-ce que c'est un échec déjà de la pensée? Comment enseigner la laïcité? On entendra tout à l'heure le témoignage de Didier Lemaire. Il était professeur de philosophie à Trappes. Il a raconté la montée de l'islamisme dans son livre. Il vit aujourd'hui sous protection policière permanente. Il est notre invité ce soir. Enfin, un mot de la campagne présidentielle. Marine Le Pen adoucit le ton face à Éric Zemmour. Un rassemblement est possible, dit-elle, à celui qui n'est toujours pas candidat. On entendra la réponse du polémiste qui, lui, maintient que Marine Le Pen ne peut pas gagner en 2022 face à Emmanuel Macron. On va débattre de tous ces sujets d'actualité avec mes invités ce soir. Nous sommes avec Karim Zerebi. Bonsoir Karim.
Bonsoir Laurence.
Consultant CNews. Prisca Thévenot nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de La République En Marche. Joseph Massescaron est là. Bonsoir. Écrivain.
Bonsoir.
Et Céline Pina, fondatrice de Vivre
Bonsoir.
La République. Bonsoir ma chère Céline. On a beaucoup de choses dans l'actualité, mais tout de suite on va revenir sur ces propos violemment anti-police proférés par des élus de gauche, et notamment Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste. Récit de Victor Chabert et Jeanne Cancard.
Après l'adjoint au maire de Cachan, c'est au tour de Philippe Poutou d'attiser la polémique.
Il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Donc oui, il y a une violence policière, on peut le dire.
Mais une violence policière et la police tue, c'est pas pareil.
Ben, la police tue, elle a tué, elle tue. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure.
En deux jours, ce sont donc deux élus qui portent publiquement de graves accusations à l'encontre des forces de l'ordre. Des propos qui représentent un danger pour leur sécurité, selon Mathieu Vallée, porte-parole et secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police.
On va avoir des voyous qui vont être encouragés par ces genres de propos. Et quand on voit que Samuel Paty est décédé de fake news et de cet acharnement de certaines personnes pour des raisons obscures, et ben là, on peut se dire que c'est la même chose. Et moi, je vous dis, si on a un policier qui est agressé, voire pire, à cause de ce genre de propos, il y aura des élus qui auront du sang sur les mains. Maintenant, il faut cesser ces comportements inadmissibles dans notre République.
Jugeant ces propos insultants et indignes, Gérald Darmanin a annoncé déposer plainte contre Philippe Poutou.
Prisca Thévenot de La République En Marche, il a raison, Gérald Darmanin, de marquer symboliquement son désaccord avec les propos tenus par Philippe Poutou.
Oui, bien sûr. Et je salue sa décision qui a été extrêmement rapide, parce qu'il s'agit d'arrêter de croire que les mots n'ont pas de sens. À l'heure où nous constatons une violence de plus en plus importante dans les mots, ces violences se retrouvent aussi dans les mots de nos politiques. Et M. Poutou est un politique. Il représente quelque chose, il représente l'État, une institution. Donc c'est absolument abject.
Voilà pour cette première réaction. On en débat ce soir dans Punchline. C'est parti pour ce soir.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. On évoque les propos anti-policiers de Philippe Poutou qui affirme que la police française tue. Oui, il y a une violence policière, dit-il. Tout de suite, on va écouter la réaction de Marine Le Pen.
L'extrême gauche est quand même coutumier du fait. À chaque fois qu'ils ont la possibilité de mettre en cause la police, ils mettent en cause la police avec des arguments qui sont de plus en plus indignes et de plus en plus violents. Je pense d'ailleurs qu'il contribue honnêtement à la montée de tension d'une partie de la population à l'égard de la police. Donc ils prennent, ils assumeront la responsabilité de leurs propos et j'espère que les Français sanctionneront très lourdement ces propos dans les urnes.
Voilà pour cette réaction de Marine Le Pen. Céline Pina, sur le fond, il y a une matrice idéologique évidemment à cette façon de stigmatiser les policiers français dans leur ensemble, en les essentialisant.
Oui, tout à fait. On est quand même dans un parti qui, pour l'instant, qui avant avait finalement une démarche révolutionnaire, pouvait avoir un projet de société, on y adhérait ou on n'y adhérait pas. Là, on voit qu'il n'y a plus rien. On est uniquement dans la culture de la haine pour réussir à rassembler, à lever un électorat. Le problème, c'est que quand on essaie ce qu'on a appelé la conjonction des luttes, je ne sais plus quel est le terme exact.
L'intersectionnalité
des luttes, voilà. C'est qu'en général, on essaie de rassembler des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt en commun. Donc c'est très difficile de les faire agir pour quelque chose. En revanche, vous pouvez cultiver leur haine contre quelque chose. Et désigner la police à cette haine, c'est désigner l'État. Derrière la police, c'est ce qui permet en fait aux régaliens de maintenir l'ordre. Refuser l'ordre, c'est refuser une société politique constituée. Et chez l'extrême gauche, oui, c'est une manière de planter une cible dans le dos des policiers. D'ailleurs, c'est ce qui a été très bien dit. Et effectivement, si les attaques se multiplient, certains auront justifié cela en ayant fait de la police une milice. Et non pas la représentante la police de tous les Français. Là, on est sur la police et la milice du pouvoir. Si vous êtes contre ce pouvoir, vous avez donc tous les droits, et notamment celui de l'attaquer. C'est juste scandaleux, d'autant que là, on a affaire à des hommes qui sont censés nous représenter. Et on aimerait bien peut-être un peu plus de tenue, un peu plus de réflexion, et ne pas les retrouver en pendant de la haine d'extrême droite qu'ils savent si bien stigmatiser.
Joseph Massescaron, votre réaction à ces propos de Philippe Poutou ?
Au départ, l'extrême gauche à laquelle appartient M. Poutou était dans le fantasme que la révolution viendrait lorsque son parti arriverait à faire joindre à la fois les jeunes, les banlieues et une fraction de la classe ouvrière. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Les banlieues, franchement, quand on voit les scores de son parti, ils sont vraiment minables. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rabattent sur, en effet, toutes les associations qui veulent tuer la police ou qui appellent à tuer la police. Quant aux travailleurs ou travailleuses, franchement, leurs scores aussi sont minables. Donc, ils se disent, bon, si on peut prendre quelques débris des gilets jaunes, ça peut toujours servir. Et quant aux jeunes, franchement, aujourd'hui, l'extrême-gauche, c'est un truc de vieux. C'est un truc de vieux. Les jeunes, majoritairement, ils ne sont pas à l'extrême-gauche. Très, très majoritairement.
Ils n'ont pas voté Jean-Luc Mélenchon en 2017 ?
Donc, c'est un truc de vieux.
Mais ils ont voté Mélenchon.
J'ai quand même la différence. Mais maintenant, vous voyez, la sensibilité politique des jeunes, elle ne va pas véritablement, majoritairement, c'est le moins qu'on puisse dire, elle va plutôt vers la droite de l'échiquier politique. Donc, ces éléments, on voit bien, c'est une tentative désespérée d'exister. Maintenant, est-ce que tout se justifie en politique ? Non, bien sûr, on l'a dit, c'est accrocher une cible dans le dos de la police, c'est totalement obscène. C'est obscène au moment où s'est tenu le procès du Bataclan, où on a vu que des policiers se sont comportés justement, où on voit que des policiers se sont comportés comme des héros, sont allés beaucoup plus loin que la fonction qui leur a été dévolue. Ils ont même eu un esprit de sacrifice. Et quand j'entends ça et que j'entends ensuite après Monsieur Poutou, je pense que oui, en effet, littéralement et dans tous les sens, il est obscène.
Karim Zerebi, sans surprise, la France insoumise apporte son soutien à Philippe Poutou, estime que nous n'avons plus de ministre de l'Intérieur, mais un bulldog des organisations policières qui aboie quand on les siffle pour menacer des candidats à la présidentielle.
C'est grave, hein. On est dans un contexte qui est gravissime, parce que ces propos sont non seulement indignes, mais ils sont anti-républicains. Ils sont anti-républicains, ils s'attaquent à une institution qui est, je dirais, un pilier de la République, et qui est une institution qui crée de la cohésion et pas de la division. Les forces de l'ordre sont là pour protéger les Françaises et les Français, quelles que soient leurs conditions sociales, leur origine, leur lieu d'habitation. Nous avons besoin de la police nationale, elle a besoin d'être soutenue plus que jamais dans le contexte difficile. C'est compliqué d'exercer ce métier quand vous partez le matin, vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir, vous vous rendez compte pour des salaires qui ne sont pas mirobolants, avec les difficultés que l'on connaît sur l'exercice de la fonction, 23 millions d'heures supplémentaires impayées, vous bossez des week-ends, vous êtes appelé à tout moment pour intervenir sur des théâtres de conflit, ou encore une fois, lorsque vous sortez de chez vous, vous ne savez pas si vous allez rentrer. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est d'être pris un peu dans cette tenaille des discours décomplexés, des extrémismes dans notre pays, une extrême droite qui attise la haine en pointant des populations, une extrême gauche qui pointe une institution républicaine. Donc, il faut refuser cette tenaille-là, il faut tracer un sillon qui est celui d'un discours républicain clair, fort et rassembleur. Et je crois que plus que jamais, dans les fractures que traverse notre pays, on a besoin de ça. Or, cette clarté, elle n'apparaît pas par ces prises de parole-là, évidemment. On rajoute de l'ambiguïté, de la confusion à un pays déjà qui s'interroge, qui est dans l'anxiété, la peur de l'avenir, la peur du déclassement et autres. Et Philippe Poutou, et je ne sais même plus quel logiciel il a, parce qu'il ne parle même pas des travailleurs, il ne parle pas de leurs conditions sociales, donc il pointe une institution gratuitement en allant chercher quoi électoralement. Et même si c'était le cas, c'est lamentable. On ne fait pas de l'électoralisme de cette manière-là. Et d'ailleurs, ça ne lui rapportera rien à Philippe Poutou. Parce qu'il y a des travailleurs qui ont des difficultés.
Du buzz, on parle de lui.
Oui, mais voilà. Le buzz, je suis désolé, le buzz, beaucoup en font. Peut-être effectivement qu'à un moment donné dans les sondages, ça peut marcher, mais le jour où il faut mettre un bulletin, on ne le met pas pour celui qui fait le buzz, on le met pour celui qui a une vision du pays et qui nous dit dans quelle direction ils veulent l'amener.
Presque à Thévenot, de La République En Marche.
Oui, moi, très bien, on peut mettre ça effectivement sur le dos du buzz. Disons que ça va être ça. Mais en fait, ce buzz fragmente, plus que de faire parler de M. Poutou en réalité, ça fragmente notre société, ça fragmente notre modèle républicain. Et ça, il faut le dénoncer absolument. Moi, ce qui m'embête un peu, et je vais le dire sur la réaction, par exemple, de la France Insoumise, qui s'est empressée tout de suite, de manière très malhonnête, et puis un peu petit bras, de répondre par un tweet.
Oui, en disant comment on peut même plus dénoncer les violences policières, vraiment, voilà, dans quel pays sommes-nous ?
Non, mais voilà. Qu'attendent-ils ? Que la police soit complètement discréditée ? Que vont-ils faire ? Jean-Luc Mélenchon va se promener dans les rues de France et de Navarre en disant « C'est moi la République, au nom de la République, délinquants, arrêtez vos trafics. » Soyons un tout petit peu sérieux. Sachant qu'en plus, rappelons à quel point c'est hypocrite. Parce que quand il y a des manifestations et que ces mêmes élus sont pris à partie, derrière qui se cachent-ils ? Derrière nos forces de l'ordre qui, eux, justement, veillent à faire respecter l'ordre, veillent à les défendre, veillent à les protéger, sans regarder ce qu'ils pourraient dire ou mentionner sur eux. Donc je trouve que, d'une, c'est manquer de respect à nos forces de l'ordre qui effectivement font preuve de courage et de flegme en permanence, et puis en plus c'est tellement petit bras. Moi je les invite vraiment à aller, ils se rencontrent souvent sur les plateaux télé, à aller passer peut-être une nuit en commissariat, en gendarmerie,
oui, ou avec une BAC,
et voilà,
en
et
patrouille.
Jean-Luc Mélenchon veut supprimer la BAC, souvenons-nous, et voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce sont des hommes, des femmes qui en plus quand ils rentrent chez eux ont peur souvent.
J'aimerais juste qu'on écoute la réaction de Xavier Bertrand qui dit qu'il y en a marre de ceux qui crachent sur la police. Écoutons-le.
Il y en a marre de tous ces gens qui se permettent de cracher sur la police ou d'insulter la police. Je vais vous dire une chose. Heureusement qu'on a des forces de l'ordre qui sont républicaines pour protéger la République et pour protéger les Français. Et tous ceux qui se permettent justement de les critiquer un jour sur deux ou matin, midi et soir, il y en a marre. Et moi, pour tous ceux justement qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, je demande quand ce sont des responsables publics qu'il y ait des sanctions à leur égard. Avec moi, les choses sont très claires. Moi, je suis du côté de nos forces de sécurité et pas un jour sur deux. Tout le temps.
Céline Pina, là, il était en plus auprès des pompiers, Xavier Bertrand, qui sont eux aussi attaqués en permanence au même titre que les policiers ou les gendarmes. Il y a un délitement de l'autorité, enfin du respect de l'autorité dans ce pays qui est assez frappant.
Oui, et c'est d'autant plus inquiétant que le régalien est à la base de toute société constituée. À savoir que la première délégation de souveraineté, on a tous une part de souveraineté, la base qui fait qu'on va la déléguer à un pouvoir constitué, c'est en général d'assurer la sécurité les uns envers les autres. Et si on casse cette base-là, on n'a plus aucune raison de se faire confiance les uns les autres, dont on casse toute la possibilité de vivre ensemble dans une société constituée. Et c'est pour ça qu'il est absolument incompréhensible de voir un homme politique qui, de toute façon, si un jour il est élu, même à un petit niveau, devrait être le garant de la constitution de cette société, dire ce qu'a dit Philippe Poutou. C'est tout à fait normal que tous les autres politiques s'inscrivent en faux par rapport à ça. Ce serait sinon scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends même pas que Philippe Poutou puisse faire une telle sortie.
Mais ce sont des gens qui ne connaissent même pas la police nationale, son fonctionnement, ce qu'elle vit. La police nationale, la plupart de ses interventions, c'est police secours. Donc, c'est porter secours aux plus vulnérables. Une femme battue, c'est la police nationale qu'on appelle. Un enfant maltraité, c'est la police nationale qui est confrontée à ça. Une personne âgée qui se fait tirer son sac, c'est la police nationale qui fait appel à ça. Mais très franchement, dire la police tue, alors que la police sauve, secourt, protège, sert tous les jours sur le territoire national, dans des conditions extrêmement difficiles. Quand je dis police, je dis gendarmerie, je dis les forces de sécurité intérieure,
bien sûr.
Qui sont au nombre de 250 000 dans notre pays. Donc je parle de la police municipale, 26 000 agents. Quand j'entends un parti dire qu'il faut les désarmer, mais c'est pas sérieux. Les désarmer, on est sur quelle planète? Ils sont en face de gens dangereux, qui font utilisation d'une arme pour leur porter atteinte. Et on voudrait les désarmer? Non, il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut les doter de matériel, il faut renforcer les effectifs, il faut leur donner le temps de se former parce qu'ils ne l'ont plus tellement qu'ils sont appelés sur tous les feux de la société. Voilà ce dont a besoin la police nationale, de soutien sans ambiguïté.
Céline Pina, il y a une petite chose, c'est qu'il dit quelque chose de très précis. Il dit la police tue une quinzaine de jeunes de banlieue. On voit bien qu'elle est parent, on voit bien qu'elle est la cible. Et c'est à la limite insultant pour les banlieues. C'est-à-dire qu'il a l'impression que pour récupérer
qu'il
le
appelle
vote,
quartier populaire.
Voilà,
quartier
mais là il dit les jeunes de banlieue. Pour récupérer ce vote-là, il est prêt à accrocher une cible sur la police. Je trouve ça désastreux, y compris pour l'image de ces quartiers qu'il dit vouloir défendre.
Joseph Massescaron, un dernier mot là-dessus.
Il y a quand même, en effet, on peut dire c'est le pendant de chaque côté de l'échiquier politique, mais on voit bien que les thèmes, de toute façon, de ce type de thèmes d'extrême gauche ont gagné quand même une frange du électorat français. Et la réaction de la France insoumise est vraiment très...
inquiétante.
Est inquiétante.
C'est quand même 11% inquiétante, d'intention de vote
voilà,
la
inquiétante
France insoumise.
Et on voit bien, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut dire maintenant que l'extrême gauche est pratiquement à 11%. Comme journaliste politique, moi j'ai connu Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas sur ces positions-là, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était même avant la présidentielle, c'était pas ce... Mais il est devenu lui-même progressivement l'otage de cette idéologie, et du coup il est revenu à des amours initiales, puisque il a commencé à l'extrême gauche, voilà, et avec l'âge il revient à l'extrême gauche, et du coup ça fait 11% quand même, 11% dans ce pays, et 11% dans son pays, c'est quelque chose en effet de considérable quand on voit tout ce qui est véhiculé derrière. C'est-à-dire, à chaque fois, on trouve, évidemment, bien sûr, une bonne raison pour expliquer un acte qui, par nature, est indéfendable.
On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé à Agde avec cette institutrice à la retraite qui a été retrouvée décapitée à son domicile. Pour l'instant, la piste terroriste n'est pas privilégiée par les enquêteurs. On fait un point dans un instant. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer ce crime abominable à Hague d'une institutrice à la retraite a été retrouvée décapitée à son domicile. Il n'y a pas de traces d'effraction dans la maison d'après les premières constatations. La piste terroriste n'est pour l'instant pas privilégiée par les enquêteurs. On fait tout de suite le point avec vous, Mario Bazac. Marie.
Oui Laurence, c'est le parquet de Béziers qui est en charge de cette enquête ouverte pour meurtre. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Le ou les auteurs des faits sont toujours en fuite, activement recherchés. Ils n'ont pour l'instant pas pu être identifiés. Et c'est le fils de la victime qui a signalé la disparition de sa mère car il était inquiet parce qu'elle ne répondait pas à ses appels téléphoniques vers 21h45 lorsque les pompiers sont arrivés sur place. Ils ont donc découvert à l'intérieur du pavillon le corps sans vie de la victime, cette femme de 77 ans qui a été décapitée. Il n'y a pas de trace d'effraction dans la maison. Cette femme, c'est une ancienne institutrice. Elle est à la retraite. Elle vivait seule depuis plusieurs années, depuis que son mari était décédé. Elle était mère de deux enfants, inconnue de l'autorité judiciaire. Elle n'a jamais été victime ni mise en cause dans une quelconque procédure pénale, et une autopsie devait être réalisée cet après-midi.
Merci beaucoup Mario Bazac pour ces précisions. Ce qui frappe Céline Pina, évidemment, c'est que pour l'instant, ce n'est absolument pas la piste terroriste qui est privilégiée, on le rappelle, mais le mode opératoire est particulièrement barbare pour ce crime.
Effectivement, décapiter quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on connaît, en tout cas sous nos latitudes. Il y a, j'allais dire, chaque civilisation a sa façon de tuer, malheureusement. Et l'égorgement ou la décapitation, ce sont pas des choses auxquelles on était habitués en France ou en Europe, en tout cas à nos époques. Donc, il y a déjà quelque chose d'extrêmement violent. En plus, une telle violence, on ne peut que se dire qu'est-ce qui s'est passé et ça ne... On imagine mal quelqu'un faire un cambriolage, se retrouver surpris, perdre tous ses moyens et aller décapiter la personne qui l'a surpris. Là, il y a un fossé qu'on a du mal à comprendre. C'est vrai que ce genre de faits divers horrifie et fait peur.
Joséphine Sescaron, sur le
Bah, oui, ce ça crime. Horrifie, ça, bien sûr, ça fait peur, ça fait penser à des tas d'images. Maintenant, la décapitation, on est quand même le pays de la guillotine, donc on a aussi en France une longue tradition de séparer la tête du corps.
Plus sérieusement,
c'est un gros... Oui, non, je suis d'accord. Non, mais plus sérieusement, il y a des éléments qui sont en effet troublants, que vous avez tout à fait relevé, c'est que il n'y a pas eu... même si on est surpris, on va pas décapiter la personne. On peut donner X coups de couteau, etc., mais pas ça. Et puis aussi, c'est que surtout, et je crois que c'est l'élément principal, il n'y a pas eu d'effraction. Donc ces deux éléments, à partir de ces deux éléments, je crois que c'est ce qui pousse, en tout cas pour l'instant, la police à considérer que la piste terroriste n'est pas privilégiée. Voilà, qu'il est possible que ce soit une personne proche ou connue de la victime.
Absolument. Karim Zarabi, un mot ?
Il faut être très prudent dans ce genre de situation. Donc moi, je me garderais bien de faire une analyse civilisationnelle sur une situation pareille. Il faut raison garder. Je pense qu'on a des fonctionnaires de police qui vont investiguer, qui vont relever des empreintes.
Police scientifique va
travailler. Il y avait une caméra, le fils avait une caméra à distance, il pouvait regarder effectivement ce qui se passait dans la maison. Donc je pense que tout ça va être analysé, scruté minutieusement. Moi, j'ai toujours fait confiance à nos fonctionnaires de police dans ce type d'investigation. Très rapidement, vous verrez, nous allons avoir des informations beaucoup plus précises, qui fréquentait ce domicile sans avoir besoin de rentrer par effraction, était-elle accompagnée d'aide quelconque, avait-elle des amis, des voisins, enfin, tout ça, ça va être vraiment passé dans le détail près. C'est de la barbarie totale qui c'est un crime barbare, disons-le clairement. Dans quelques heures, voire dans quelques jours, je pense que nos fonctionnaires de police nous donneront des éléments supplémentaires. Et si le parquet antiterroriste doit être...
pour l'instant, il ne l'est pas. Voilà.
Doit être
saisi.
Il le sera.
La décapitation est quand même un élément qui choque énormément.
Absolument.
Si ça avait été un coup de couteau, on n'en parlerait probablement pas ici.
Prisca, un mot sur cette terrible affaire.
Une enquête est ouverte, effectivement. C'est absolument glaçant, c'est angoissant. J'imagine aussi l'état d'esprit dans lequel doit se retrouver le voisinage, parce que quand même beaucoup de points d'interrogation sur tout ça. Et puis rappelons effectivement, par rapport à ce qui a été dit, que c'est le fils qui a découvert sa mère dans cet état. Donc on peut imaginer l'état d'esprit qui doit régner en ce moment. Et tout mon soutien à cette famille. Et puis, bien évidemment, nos forces de l'ordre. On en parlait juste avant, sont là pour assurer le suivi et faire toute la lumière
et
sur cette affaire.
Et mettre le meurtrier en prison. On va juste écouter la réaction de quelques voisins, vous avez raison, qui sont totalement sous le choc.
C'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire-là. On coupe pas la tête de quelqu'un quand on va le cambrioler. Surtout pas une dame comme ça. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Je la connaissais moyennement, mais je la connaissais, oui. C'était quelqu'un d'adorable.
Je la connaissais, hein. On a sorti avec son mari et tout. C'était des personnes gentilles et tout. Depuis qu'elle avait perdu son mari, c'était plus la même, mais quand même.
C'est très triste, c'est quelque chose dont on pense que c'est impensable, surtout dans ce quartier-là. Parce que j'habite juste de l'autre côté et c'est des choses qui sont atroces, quoi.
Voilà, l'horreur et le choc de ses voisins interrogés par Stéphanie Rouquier. La police va évidemment mener son enquête. On en rendra compte dans les prochains jours, évidemment, sur notre antenne. J'aimerais qu'on parle aussi de ce volet qui concerne la justice, puisqu'évidemment, le travail de la police est intimement connecté au travail de la justice. On a un sondage CSA pour CNews qui indique que 92% des Français estime que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. Prescott Thévenot, vous êtes porte-parole de La République En Marche, c'est un véritable désaveu pour la politique menée depuis 4 ans et demi par votre gouvernement, et on va englober tous les quinquennats précédents. 92%, 9 Français sur 10 qui disent « la justice ne punit pas assez sévèrement les délinquants ». Quelles leçons vous en tirez ?
C'est très inquiétant. C'est très inquiétant, puisque la justice est un des piliers de notre République, bien évidemment avec les forces de l'ordre dont on a parlé à l'instant. Et donc c'est assez symptomatique, il faut l'entendre, il faut l'écouter, il ne faut pas essayer de le justifier, parce que ça, c'est symptomatique de plein d'autres sujets. Si on ne fait plus confiance, parce que c'est en fait ça ce que ça dit, on ne fait plus confiance en la justice, donc ça pourrait poser des questions de se faire justice soi-même finalement, ou de ne peut-être pas aller pour les victimes vers la justice quand on a un sujet. Donc oui, c'est très inquiétant. Maintenant, par rapport à ça, oui, il y a des solutions, il y a des choses qui ont été mises en place, je suis d'accord avec vous, ça prend du temps à se voir dans les faits, on en a parlé sur différents faits divers, mais les choses avancent. Rien que sur le début du quinquennat, depuis 2017, la justice a eu 30% de moyens en plus. Pourquoi ? Parce que souvent, on vient aussi remettre en question la justice parce qu'elle est lente. Et elle est lente, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens d'agir. Mais il y a aussi tout le sujet de la loi. Et la loi peut faire évoluer la justice parce qu'elle répond de moins en moins facilement et de manière simple aux problématiques de la société qui évoluent. On parlait du rappel à la loi, on parlait des réductions de peine automatiques. Tout cela est mis en œuvre. Bien évidemment, c'est mis en œuvre pendant le quinquennat, mais les effets sur l'opinion publique et sur le ressenti des Français vont prendre un peu plus de temps.
Karim Zeribi, la justice et les Français.
À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, soyons clairs, nous avions un retard considérable sur le budget à la fois de la police et de la justice. Un retard budgétaire qui pénalisait à la fois le manque d'effectifs, le manque d'infrastructures et le manque de moyens matériels, notamment pour les fonctionnaires de police. À la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, a-t-on rattrapé ce retard ? La réponse est non. Ce gouvernement n'a-t-il rien fait ? La réponse est non aussi. Mais le retard n'est pas comblé. Et la prise de conscience n'est pas suffisamment forte de la part de ce gouvernement qui aurait dû engager et prendre des mesures fortes. Les états généraux de la justice qui vont s'ouvrir lundi, excusez-moi, c'est pas à 6 mois de la fin d'un mandat qu'on met en œuvre un tel événement. C'est dans les 6 premiers mois d'un mandat. Pareil pour le Beauvau de la sécurité, dans les 6 premiers mois d'un mandat. Et là, on fait effectivement un diagnostic. Et là, on attribue sur 5 ans des moyens. Et à marche forcée, et on y va, et on va plus loin, on va plus haut, on va plus fort pour donner à nos fonctionnaires de police les moyens de faire leur travail et à la justice de statuer. Or là, on se dit, finalement, sur cette question éminemment régalienne de la justice, les Français considèrent que ce gouvernement n'a pas fait le job. Donc, il faut le dire. Et encore une fois, c'est pas dire que vous êtes arrivé dans une situation qui était bonne. Elle ne l'était pas. Mais à la fin du mandat, elle est guère meilleure et les Français ne sont pas convaincus.
Céline Pina.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas convaincus, mais il y a aussi des raisons pour lesquelles ils ne le sont pas. Et notamment quand on s'amuse un petit peu à faire du « mais en même temps » avec le casting de son gouvernement. Or, un gouvernement, c'est aussi un message, ça doit être cohérent. À partir du moment où on dit « tiens, à la police, je vais mettre quelqu'un qui a la réputation d'être ferme », comme M. Darmanin. Bon, alors du coup, pour compenser, du côté de la justice, je vais mettre quelqu'un qui a la réputation d'être plutôt au service des délinquants. La réputation est peut-être injuste, mais c'est comme ça, en tout cas, que M. Dupond-Moretti était vu. Et le problème, c'est que le premier acte qu'il pose quand il devient ministre de la Justice, c'est qu'il se fait applaudir par des délinquants en prison, ce qui renvoie exactement cette image-là. Et du coup, vous vous trouvez avec des Français qui se disent « mais quel est le message ? Fermeté ? Indulgence ? Pourquoi mettre un couple qui ne fonctionne pas alors que déjà les tensions entre la justice et la police sont très importantes ?» Et du coup, vous ne faites passer aucun message. Et en plus, ce « mais en même temps » finit par tourner au foutage de gueule. Donc ça ne passe plus du tout. Et je crois qu'il faut vraiment arrêter. Et ce n'est pas parce qu'on est en campagne électorale qu'on met des états généraux de la justice en affichant une volonté d'agir que les gens y croiront. Ils n'y croient plus. Et c'est un vrai problème. Parce que quand les gens pensent que la justice est efficace, c'est tout à fait juste. Ils ne pensent ni à se faire justice eux-mêmes, mais même mieux que ça, ils acceptent des choses qu'on pense difficiles à accepter. Par exemple, la demande de mettre en place la peine de mort chute énormément à partir du moment où un peuple a le sentiment que sa justice fait le travail. Donc en plus, on a intérêt pour nous élever à avoir une justice efficace.
Joseph Massescaron, votre analyse de ce sondage, c'est ça pour CNews. 92% des Français qui ne croient plus à leur justice, qui la demandent plus sévère.
La première chose, ça me fait penser à cette fameuse boutade. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et les ministres de la justice qui se sont succédés l'ont rendu comme un gland, comme des glands. Simplement, au départ, ça désignait un ancien ministre de la justice de François Mitterrand, Pierre Arpaillange. Moi, ce qui me, quand je lis cette condamnation, parce que c'est une condamnation pour le coup, la justice, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on parle de la justice? Ou est-ce qu'on parle des juges? Est-ce qu'on ne considère pas que les juges sont trop laxistes? Parce que dans ce cas de figure, la question n'est pas en effet l'augmentation ou pas du budget qui a eu lieu. Ce n'est pas non plus un certain nombre de réformes qui ont été mises en place. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est le juge lui-même qui se trouve sous la sellette. Aujourd'hui, en France, pour entrer à l'École nationale de la magistrature, il faut, qui est à Bordeaux, c'est un concours d'ailleurs très sélectif, à partir d'un master en droit ou à partir d'une IEP. Voilà. Alors, les personnes qui arrivent et qui sont juges, est-ce qu'elles ont toute l'expérience quand elles arrivent et qu'elles ont 23 ou 24 ans? Est-ce qu'elles ont toute l'expérience suffisante? Je dis ça pourquoi?
La réponse est dans votre question.
Ben oui, bien sûr, parce que sous votre plateau, il y a M. Fenech, en effet, je l'ai dit, qui avait souligné qu'il y a d'autres pays, par exemple la Grande-Bretagne, où ce sont des avocats qui sont sélectionnés, et après, justement, après avoir une expérience réelle. Mmh. On pourrait très bien envisager, en effet, que des avocats en France, à partir de tant d'années, deviennent juges.
Ça serait une révolution.
Ce serait, bien sûr. Oui, mais attendez. Révolution, attendez, c'est le titre.
Les relations entre juge et avocat,
c'était pas le titre d'un essai à un candidat à la présidence
c'est
de la République.
C'est fort possible.
Non, je crois. Tu voulais être disruptif.
2016.
Voilà.
Avec
non,
un S.
Voyez, j'ai une bonne lecture.
Créer des passerelles les commissaires de police, peut-être, et la possibilité d'être magistrat.
Aussi pour ça. Voyez, attendez.
C'est le Big Bang de la justice, là. Voilà, mais c'est le Big Bang de la justice que vous nous demandez.
Ça veut dire qu'il y a. Non, mais c'est ça ce qu'attendent les Français, justement. Et c'est pas, en effet, des petites mesures. Et c'est pas justement un artifice peu de mois avant la présidentielle.
Oui, un artifice de communication. Ces états généraux de la justice, Prescott Thévenot, ils vont mettre quoi sur la table? Le constat, ok, on l'a tous, il n'y a pas assez de place en prison, les comparutions immédiates s'arrêtent parfois à 10h du matin parce qu'on sait que les magistrats savent qu'il n'y a plus de place, donc ils ne peuvent pas emprisonner. Est-ce qu'il y a un moment où on va poser tout ça à plat, mettre les moyens en face des besoins qu'ils ont? Poser la question de la responsabilité des juges, la réponse pénale, encore une fois, est-ce que tout ça, ça va être sur la table?
Alors, si je connaissais forcément la conclusion des états généraux, je pense qu'on aurait un petit scoop ce soir, mais je ne la connais pas. Mais oui, les constats, on les connaît, effectivement, on les connaît déjà. La preuve, c'est que des moyens supplémentaires ont été mis sur la justice. C'est pas anodin, et des moyens supplémentaires ont été revotés, parce que le PLF, le projet de loi de finances, est en ce moment en discussion à l'Assemblée, pour l'année prochaine. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été mises en place. La réforme du code de justice pénale des mineurs, il y a également... On parlait tout
Qu'est-ce
à l'heure...
Qu'est-ce que ça change, alors, par exemple? La réforme du code pénal des mineurs, ça change quoi?
Eh ben, le délai de traitement. Tout simplement. On passait avant sur 18 mois, en moyenne. Hein. En moyenne, on passe à 3 mois.
D'accord.
Donc, je veux dire, on pourra toujours dire...
Avec une décision en deux temps. Hein.
Oui, mais une décision...
Vous me l'accordez. Donc, premier temps, on dit, tu as fauté, mais je te donnerai ta peine dans 6 mois.
Dans 3 mois.
Mais... Les délais peuvent aller jusqu'à 6 mois.
Oui, mais je veux
On démultiplie la... Bah
déjà, on reconnaît la culpabilité. Ensuite, la peine arrive. Mais déjà, il y a le sentiment. On parle beaucoup d'impunité.
Mais quel est l'intérêt de la décorréler Je ne comprends pas.
Non, mais il y a aussi
pourquoi attendre 3 mois?
Il y a aussi un sujet d'enquête, un sujet de venir petit à petit. Enfin, je veux dire, si on pouvait rendre justice très rapidement, sans prendre en considération les événements de chacun et chacune dans chaque dossier, je veux dire, la justice aussi, on pourrait aussi se poser des questions sur la pertinence de la justice. Et là, on aurait d'autres problèmes. Donc, je pense que oui, il y a... Attendez, le sujet n'est pas de dire qu'en 5 ans...
Allez, rapidement.
Voilà, mais le sujet n'est pas de dire qu'en 5 ans, tout est parfait et nous sommes et le monde va mieux. Mais des progrès ont été faits, des avancées ont été menées et notamment de reconnaître enfin pleinement que pendant très longtemps, effectivement, justice et police ont été déshabillées. Donc on ne leur a pas donné les moyens d'agir.
Karim.
Non, mais le premier problème, c'est qu'on ne statue même pas lorsqu'on a un flagrant délit. C'est ça le sujet. Parce que quand vous parlez du travail d'enquête, moi je veux bien comprendre que sur certaines situations, et vous avez raison de le dire, il faut que la police fasse son travail et suivre ça sérieusement. Mais quand on a de la délinquance en flagrant délit, on ne peut pas vous remettre à 3 mois de la décision de passer devant un magistrat. On doit vous faire passer devant un magistrat dans les heures qui suivent. Et c'est ça qu'il faut se donner comme moyen dans notre pays. Force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez un acte de délinquance qui apparaît, aux yeux de la victime d'abord, impuni, parce que la victime apprend effectivement que la personne sera traduite dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais non, elle m'a tiré mon sac, elle m'a agressé. Oui, cette semaine.
Il y a eu comparution immédiate.
Oui, pour pas
l'agression à Comble-la-Ville.
Oui, mais
une exception ne fait pas la généralité.
Mais non, ce que mais je veux dire, c'est qu'on a un problème.
On avance sur cette démarche-là. Vous êtes
nous sommes en fin du spectaculaire que ça a été souligné, justement.
Nous
sommes en fin de quinquennat. Ne prenez pas une exception pour en faire une généralité. Je sais que vous êtes honnête intellectuellement. Reconnaissez que si vous avez fait un effort sur le budget de la justice, nous étions dans le peloton de queue des pays de l'Union européenne en matière de budget sur la justice. Aujourd'hui, en fin de quinquennat, Briscard, le compte n'y est pas. On aurait dû aller plus loin, plus vite, plus fort, en début de mandat. Nous ne l'avons pas fait. Et les discours ambigus sur le plan politique, encore avec un Gérald Darmanin qui a une parole autoritaire et un garde des Sceaux qui semble ne pas être en accord avec lui. On ne peut pas manier le en même temps sur un sujet régalien aussi majeur et important pour le pays et pour la cohésion du pays. Il faut être clair. Et tracer le sillon.
Petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant avec Didier Lemaire, ce professeur de philosophie qui enseignait à Trappes, qui écrit ce livre « Lettres d'un hussard de la République ». Il décrit la montée de l'islamisme dans l'enseignement scolaire. Et évidemment, on va inscrire cela dans les commémorations un an après la mort de Samuel Paty. À tout de suite dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Céline Pina, fondatrice de Vivre la République, avec Joseph Massescaron, écrivain, Prisca Thévenot, porte-parole de La République en Marche. Et nous accueillons Didier Lemaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être là. Vous écrivez Lettres d'un hussard de la République aux éditions Robert Laffont, avec ce titre Avant qu'il ne soit trop tard. On va parler de votre expérience. Vous étiez prof de philo à Trappes. Vous avez dénoncé la montée de l'islamisme dans votre école, dans votre établissement, dans la ville de Trappes. Évidemment, vous n'êtes aujourd'hui plus enseignant, vous êtes en disponibilité.
Oui, un poste m'a été proposé d'abord au mois d'avril dans un lycée à Argenteuil, donc, dans une banlieue qui est quand même un territoire aussi conquis par l'islamisme. Et puis à la rentrée, un autre poste que je n'ai pas accepté. J'ai fait donc jouer mon droit de retrait parce que j'estime qu'ayant une cible dans le dos, je risque ma vie... à m'exposer ainsi dans un lycée.
On va évoquer ce que vous racontez dans ce livre qui est tout à fait hallucinant et que nous avons lu. D'abord, un mot de l'hommage à Samuel Paty qui se déroulera demain et samedi. Il y a un an que cet enseignant d'histoire-géographie a été décapité par un terroriste tchétchène. L'hommage qui lui sera rendu, en tout cas dans l'enseignement scolaire, c'est soit une minute de silence, soit un moment d'échange entre les élèves et un professeur. Simplement, on avait pensé que ça serait dans tous les établissements scolaires. Or, l'éducation nationale nous précise que c'est optionnel, c'est-à-dire que c'est la discrétion, en réalité, des chefs d'établissement. Est-ce que c'est une défaite pour vous? Est-ce que le fait que cette minute de silence, on n'ose même pas la mettre en œuvre dans certaines écoles, c'est une défaite pour vous?
Absolument. Je suis triste et toujours en colère. Qu'il n'y ait aucune obligation d'honorer la mémoire de Samuel Paty, c'est absolument inacceptable. Nous avons aussi affaire, là, dans cet hommage, à un bal des hypocrites, car la vérité n'est toujours pas faite sur les responsabilités, y compris de l'institution, dans cet assassinat.
La responsabilité d'Éducation nationale dans l'assassinat de Samuel Paty?
D'après le rapport même de l'Éducation nationale... Le référent laïcité a mis en cause le travail de l'enseignant.
Qui avait montré les caricatures.
Qui avait montré, plus exactement, il n'a pas montré des caricatures, il a proposé à ses élèves d'analyser des documents dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. C'est un peu autre chose.
Bien sûr.
Ensuite, il faut dire que le professeur, alors même qu'il était menacé, n'a pas été mis sous protection. Donc on peut quand même s'interroger sur la responsabilité des politiques aujourd'hui.
Et je précise que vous êtes sous protection policière. Céline Pina, sur cet hommage à Samuel Paty, il n'est pas obligatoire, donc il est facultatif au fond. La liberté d'expression, elle est facultative.
C'est même pire que ça, je trouve que c'est une démission, c'est un aveu terrible. Vous savez, il y a eu des sondages qui ont été faits qui montrent que depuis cette histoire, et puis avant un petit peu, aujourd'hui c'est 50% des professeurs, notamment des professeurs d'histoire géo, qui s'autocensurent. Ils s'autocensurent en expliquant que quelque part ils ont un peu peur des réactions de leurs élèves, qu'il y a des ambiances très particulières dans les classes, et puis que derrière ils sont absolument pas sûrs d'être soutenus par la hiérarchie, parce que dès qu'ils peuvent, ils expliquent que le pas de vague, c'est toujours le cas à l'éducation nationale. Et là, je trouve ça... d'une violence extrême. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'écrit David Dinota, on a
qui
menti.
Qui est un journaliste qui a retracé les étapes qui ont conduit à l'assassinat.
Voilà, son livre, ça s'appelle « Comment j'ai tué un chien de l'enfer ». Et en fait, il démonte toute la mécanique. Et une partie de la mécanique, c'est que Samuel Paty est mis de côté. Il n'est absolument pas protégé par l'institution. Il n'est tellement pas protégé par l'institution. La direction même de son collège est tellement ambiguë qu'aujourd'hui, par exemple, ce collège ne s'appelle pas Samuel Paty. Ça
par
aussi,
peur,
c'est un scandale.
Par peur, tout simplement.
Eh bien, il y a des journalistes qui sont retournés pour interroger justement la principale. Et vous savez ce qu'elle leur a dit ? Elle leur a dit « On se bat pour maintenir une harmonie. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas nous embêter. » Donc, en fait, le drame de Samuel Paty, l'horreur qui a été vécue, ça ennuie quand même la communauté éducative. On hallucine en entendant ça. Et on comprend un petit peu mieux quand on lit comment, notamment, deux de ses collègues ont réagi. Le discours qu'ils tiennent pour expliquer qu'en fait, Samuel Paty est responsable de ce qui lui arrive est un discours typiquement islamo-gauchiste qui explique qu'en fait, en gros, Samuel Paty s'est servi de la liberté d'expression pour offenser une gamine. La gamine a menti. Autrement dit, on a mis en cause pédagogiquement un professeur tout simplement parce que l'institution était terrorisée à l'idée de se faire traiter d'islamophobe et elle a préféré sacraliser la parole d'une gamine au nom de l'offense faite à la religion plutôt que rendre hommage à un homme qui en plus était un excellent professeur. Moi, cette histoire me rend malade, littéralement, et je trouve que ce que a fait Jean-Michel Blanquer est honteux. Et la seule manière de réparer ça, c'est que ce collège s'appelle Samuel Paty.
Joseph Massescaron, un mot sur Samuel Paty, et après on reviendra au livre de Didier Lemaire.
Bah, je partage évidemment à 200% ce qui vient d'être dit. Évidemment, mais c'est malheureusement pas une évidence. Aujourd'hui, on voit bien que l'éducation nationale ne protège plus ses professeurs, ses enseignants. C'est-à-dire que c'est vraiment surtout la peur, la crainte de faire des vagues. Et c'est l'idée et de maintenir quelque chose qui ressemble à un pseudo vivre ensemble qui n'existe plus parce que quand vous n'avez pas le langage commun sur quelles sont les valeurs, sur un certain nombre de la moralité. Quand vous n'avez plus un langage commun, il n'y a plus de vivre ensemble, par définition. Donc, je pense évidemment à tous ces professeurs d'histoire géo, tous ces professeurs de philo, tous ces professeurs de français, qui de professeurs de français sont devenus professeurs d'instruction civique, de professeurs d'instruction civique sont devenus des professeurs d'hygiène, maintenant, en classe, parce que c'est ça, la réalité. Je pense aussi, évidemment, je pense à ça, parce que mes enfants étaient pions, donc ce qu'ils m'ont raconté, absolument, mais effroyable, de démission et de non-protection. Parce que je pense en effet à tous ces jeunes qui ont 18-19 ans, qui sont pions, et qui se retrouvent avec des personnes qui mesurent pratiquement, qui sont plus grands qu'eux, et qui tiennent des propos, qui sont des propos mais juste invraisemblables. Parce que il n'y a pas simplement que la question de la caricature, il y a l'impossibilité de parler de la Shoah, il y a des impossibilités. Il y a eu un très bon, d'ailleurs, article, une très bonne enquête dans Charlie Hebdo de cette semaine, avec plein d'exemples. Quand vous voyez que c'est même l'école, c'est même dans une école où une institutrice vient et que elle ne peut pas réciter les trois petits cochons parce que les petits cochons c'est pas Ralouf, d'accord,
d'accord.
Donc juste c'est
ça va très loin.
Ça va très loin, c'est-à-dire et c'est là où le livre de Monsieur Lemaire est salubre, c'est que ça montre justement à quel point le mal est enraciné, est enquisté dans notre société.
Ce que vous dites aussi, Didier Lemaire, dans ce livre. À propos de la mort de Samuel Paty, vous relatez une scène le 16 octobre 2020, le jour de la mort de Samuel Paty, qui démontre l'omerta qui règne. Vous dites, c'est hallucinant. Je vais en lire les quelques phrases. Un enseignant sort en voiture de son collège. Il passe dans une rue et voyant un homme à terre, s'arrête. Il pense à un accident. Il descend de son véhicule et reconnaît au sol son collègue, Samuel Paty. Un homme penché sur son corps avec un couteau est en train de le décapiter. L'enseignant remonte dans sa voiture. Il ne prévient personne. Il roule 600 km et retrouve sa maison de vacances. Ce que vous racontez est effrayant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu une enquête pour savoir si un des collègues de Samuel Paty l'avait vu en train de se faire assassiner?
J'ai écrit cette page pour qu'il y ait une enquête, parce que ce fait m'a été relaté par une personne que j'estime digne de confiance, qui exerce des responsabilités dans l'institution. Je ne peux pas évidemment le vérifier moi-même, et j'espère qu'une enquête sera ouverte, parce que nous avons affaire là, au-delà... du problème moral et humain que ça pose. Nous avons affaire là à un délit très grave de non-assistance à personne en danger.
C'est peut-être pour ça que cette personne ne se dénonce pas.
Oui, ce qui est très étonnant, c'est qu'il semblerait que plusieurs personnes dans l'établissement de Samuel Paty soient au courant de ce fait. Et c'est l'omerta, effectivement.
Peut-être que Prescateno de La République En Marche a envie de s'exprimer là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'une enquête soit diligentée? Est-ce que vous, l'enquête soit menée ou par l'Éducation nationale ou par la police, tout simplement, pour démêler le vrai du faux?
Alors, effectivement, si vous rapportez des paroles rapportées, effectivement, une enquête doit être ouverte parce qu'effectivement, ça relève du délit, non-assistance à personne en danger. Bien, on connaît en plus l'issue de cet acte. Bien évidemment, ça doit mener à une enquête et j'imagine que ça a été mis en cours. Si ce n'a pas été fait, il faudrait que ce soit fait. Maintenant, ce que j'aimerais apporter, et ça n'enlève en rien l'atrocité de ce que relève le drame qu'a vécu Samuel Paty en étant décapité parce que professeur, parce que défendant nos valeurs de liberté d'expression, j'aimerais juste permettre de nuancer. Parce que, effectivement, je pense qu'il faut faire attention à ne pas venir, et vous êtes un professeur, et je salue votre courage de venir encore aujourd'hui témoigner de tout cela, venir remettre en cause complètement l'institution. C'est quand même l'Éducation nationale. Il y a énormément de professeurs, de maîtres d'école qui sont volontaires, qui y vont, qui ne lâchent pas du dernier au premier jour. Maintenant, ce que je suis en train de dire, je vous ai très longtemps écouté, et du coup, je vais finir mon propos et vous allez voir que ça va être très simple. Maintenant, effectivement, ce que ça relève, c'est qu'il y a eu des défaillances en lien avec sûrement une omerta, sûrement une peur, sûrement une crainte. Peut-être un peu aussi de non-compréhension d'où ça pouvait aller, parce qu'on voit que c'est une escalade. Dans le cas de Samuel Paty, on voit très bien comment ça va. Et donc oui, dessus, il faut que tout le monde soit absolument responsable de ce qui se passe. Et je rajoutais pour demain, ne soyons pas à notre tour hypocrites. On aurait pu dire de façon très simple, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur ce plateau, il y a obligation demain de rendre hommage à Samuel Paty à 9h pétante. Est-ce que ça aurait été réellement fait dans tous les établissements de France et de Navarre? Je ne suis pas sûre.
Mais vous avez la réponse.
Ben voilà, et donc c'est pour ça que je dis attention à venir aussi. Non, mais c'est pour ça que je dis, effectivement, nous devons tous et continuer à dénoncer, à nous lever, à nous insurger contre cela, mais attention à ne pas venir jeter l'opprobre sur toute une institution où il y a énormément d'hommes et de femmes qui se battent
Didier
au quotidien.
Didier Le Maire, toute comparaison évidemment avec Samuel Paty n'est pas bonne. Ce qui vous est arrivé, vous, à Trappes, c'est le fait d'avoir dénoncé, encore une fois, la montée de l'islamisme, la radicalisation dans vos classes, et oui. Ça vous a coûté votre poste?
Oui, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait dès 2018 en écrivant au président de la République avec Jean-Pierre Robin. Mon combat est d'abord celui de mes élèves. Je cherchais à protéger mes élèves. Ensuite, j'ai dû me positionner aussi en tant que citoyen, parce que c'est tout notre pays qui est attaqué. C'est l'école aujourd'hui dans son ensemble, partout sur le territoire, qui est attaqué. Il y a aujourd'hui une dizaine d'enseignants qui sont menacés de mort, qui ne sont toujours pas protégés. Ces enseignants m'écrivent aujourd'hui. Ils se retrouvent seuls.
Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont tenté d'expliquer la liberté d'expression, la laïcité à la française?
Ils font leur travail. C'est la science, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression, c'est la raison même qui est attaquée par les islamistes aujourd'hui.
Et aujourd'hui, on essaye de ne pas entendre tout cela, et on essaye de couvrir tous ces faits-là?
Oui, couvrir par l'émotion. Encore une fois, on fait appel aux enfants pour mener cet hommage, alors que ce sont les adultes et les politiques eux-mêmes qui devraient être présents et être là et montrer l'autorité de la République partout.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui?
Non, c'est un renoncement total.
Dans tous les quartiers?
Un abandon, oui. Mm-hmm. Oui, à votre bon cœur, ici on mettra des fleurs, là on plantera un arbre. À quoi bon? Rien n'a changé depuis Samuel Paty.
Malgré vos mises en garde, malgré toutes les phrases que vous écrivez dans ce livre, vous décrivez la situation à Trappes, mais partout ailleurs.
Écoutez, il y a quelques petites avancées minimes, des mesurettes qui produiront sans doute leurs effets dans la loi qui rappelle les principes républicains, mais il n'y a pas de plan pour contrer cette offensive. Et il n'y a rien qui est fait pour l'école qui est menacée aujourd'hui. La pression s'exerce partout dans les classes. Même les règles de discipline ne sont plus acceptées dans certains
établissements. Une professeure qui a été violentée la semaine dernière à Comble-la-Ville, c'est aussi un exemple du délitement de l'autorité.
Oui, je pense, oui.
Et c'est surtout, ne faites pas de vagues. Le Covid, la crise que nous avons traversée, nous a appris une chose. C'est à faire la différence entre les fonctionnaires et la bureaucratie. Ça, on l'a vu dans sa pureté de cristal. Tous les Français savent bien aujourd'hui faire la différence. Voilà. Renvoyant dos à dos, gauche et droite sur ce sujet-là. Eh bien, c'est exactement la même chose au sein de l'éducation nationale. C'est-à-dire, il y a une bureaucratie qui est faite souvent de pas de vague, d'une somme de petites lâchetés. Et pendant ce temps-là, en effet, il y a des professeurs qui essayent tant bien que mal de faire leur travail.
J'aimerais juste citer un sondage IFOP qui montre que plus de 60% des jeunes, 63%, estiment que la laïcité est aujourd'hui en danger en France. Mais il y en a plus de la moitié qui juge par ailleurs que la défense de la laïcité est souvent instrumentalisée par des personnalités politiques, des journalistes, qui veulent dénigrer les musulmans, un chiffre identique à celui de l'an dernier. Ça dit tout,
ça ? Ben oui, ça dit tout. Ça dit que l'argument de l'islamophobie, finalement, relayé par une grande partie de la gauche aujourd'hui, a gagné les esprits. C'est une défaite idéologique majeure.
Et qui doit la mener, cette bataille-là ?
Ben écoutez,
Les parents, les profs
Ben je crois que c'est tous les citoyens. Nous entrons dans une période électorale où peut-être certaines questions vont pouvoir enfin être débattues.
Quelques-uns des candidats l'abordent.
À commencer par le gouvernement, parce qu'en fait, la parole du gouvernement, on n'a pas à se soucier si tout le monde suivra ou pas. On n'a jamais un pays qui, à 100%, suit la parole du gouvernement. La parole politique, elle est là aussi, à un moment donné, pour être symbolique et pour indiquer ce qui est important et ce qui est crucial dans une démocratie. Le fait de dire, rendre hommage à un homme qui a été décapité dans l'exercice de ses fonctions, du fait d'une haine religieuse ou d'une construction comme ça, ça devrait être automatique. Le fait de ne pas oser l'imposer, c'est un scandale et c'est une démission.
Un dernier mot là-dessus, presque à Thébnaud.
Oui, les mots sont importants et souvenez-vous, même avant ce drame absolument abject, il y avait eu le discours des Mureaux du président de la République qui s'était ouvert justement et c'est suite à ça que la loi contre les séparatismes a été mise en place. Alors j'entends bien évidemment que ça ne va pas assez vite et qu'on aimerait ne plus avoir à en parler.
Merci Didier Lemaire d'être venu.
Merci à vous.
L'être un hussard de la République avant qu'il ne soit autre. Ce livre que vous publiez aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. Dans un instant, la suite de Punchline sur Europe 1. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h, bienvenue à vous tous et à vous toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron, président footballeur, et il s'en sort pas mal, nous dira Cyril de la Morinerie qui suit cette rencontre caritative à Poissy.
De plus en plus chers les carburants à la pompe, le gouvernement réfléchit aux moyens d'aider les Français qui en ont le plus besoin. L'assassinat de Samuel Paty, c'était il y a près d'un an. Demain, tous les élèves de France sont appelés à lui rendre hommage. Et puis, il est passé par ici, il repassera par là. On vous dira tout sur le tracé du Tour de France 2022.
Et la météo, c'est la tendance avec vous, Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence. Le temps de ce vendredi reste sec et doux, sous un ciel plus ou moins voilé. Des précisions à la fin du journal.
Europe 1.
Un président sur un terrain de foot, c'est l'image de la soirée. Emmanuel Macron dispute un match caritatif à Poissy dans les Yvelines.
Oui, un match de gala pour les 50 ans du Variété Club de France. La recette ira aux pièces jaunes, fondation présidée par Brigitte Macron. Amour du football ou coup de com', peut-être les deux, mon général. En tout cas, Cyril de la Morinerie, le président tient la forme.
Oui, il tient la forme, effectivement. Il a laissé son costume au vestiaire. Il est très à l'aise, le président de la République, avec sa tenue de foot. Emmanuel Macron est arrivé sur la pelouse, vêtu d'un short blanc, chaussette blanche et maillot bleu.
Numéro 3, et c'est notre surprise et notre attente, Emmanuel Macron.
Depuis le début du match, le président de la République ne s'économise pas et à la 8e minute, Emmanuel Macron se retrouve face au gardien.
Pénalty en faveur du Variété Club de France. Emmanuel Macron s'apprête à le tirer. Et but ! But !
Voilà, une très belle frappe plein centre. C'est l'égalisation. Un président qui aime en effet avoir une position centrale sur le terrain. Mais on l'a vu faire quelques incursions, balle au pied sur les côtés, plutôt défensive sur sa gauche et très offensive sur l'aile droite en tribune. Les spectateurs applaudissent les actions présidentielles comme Pascal qui décrypte la performance donc du président comme s'il avait affaire à un joueur de foot.
Et bien sûr Emmanuel qui marque un but, un pénalty formidable. Je ne l'avais jamais vu sur le terrain, évidemment là forcément je suis impressionné. Ça repart, hop c'est Macron, oh là là.
Il joue plus à droite ou plus à gauche selon vous?
Ah bah là il est à droite. Hein.
Il va pas trop sur le côté gauche?
Bah, je ne l'ai pas vu dépasser le milieu de terrain, même au pénalty il était pile sur la ligne. Hein.
Voilà, c'est la première fois qu'un président en exercice joue avec le Variété. Un président de la République très affûté physiquement qui n'est toujours pas sorti du terrain. Je le vois encore galoper avec son numéro 3. Et un club du Variété qui mène 4 buts à 1 après le premier but donc marqué par Emmanuel Macron sur pénalty.
Voilà, un président qui galope très offensif sur son aile droite, nous disait Cyril de la Morinerie depuis Poissy pour Europe 1. Hier soir, un autre match caritatif se jouait à Marseille au Vélodrome. Résultat, plus de 430 000 euros récoltés pour l'UNICEF. Et puis avant d'endosser la tenue de footballeur, Emmanuel Macron, qui visitait plusieurs sites des futurs JO de 2024, a annoncé un énorme coup d'accélérateur pour mettre le sport au cœur de la nation. 200 millions débloqués, 5000 équipements de proximité seront construits.
Et si cette journée était particulièrement dédiée au sport, Emmanuel Macron n'a pas pour autant oublié d'évoquer un grand sujet d'inquiétude pour les Français, la hausse du carburant.
Oui, les prix à la pompe sont au plus haut depuis 10 ans. Le président promet d'agir.
Il y a une action que nous menons sur le plan diplomatique et international pour essayer de décontraindre ces prix. Deux, il y a une action de court terme qui est en effet d'accompagnement des ménages. Et le gouvernement y travaille et aura dans les prochains jours à compléter sa réponse en fonction de l'évolution pour ne laisser personne dans le désarroi.
Voilà Emmanuel Macron et ce matin, invité de Sonia Mabrouk, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a bien confirmé que le gouvernement envisageait des pistes pour aider nos concitoyens les plus en difficulté qui ont vraiment besoin de leur voiture. On sait quelles pourraient être ces mesures, Maud Descamps.
Oui, alors il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude. Une première option serait de jouer sur les taxes, notamment la TVA, mais cela voudrait dire baisser le prix de l'essence pour tous les automobilistes, sans faire de distinction entre les plus aisés et les plus modestes, ni entre ceux qui conduisent des véhicules très polluants et les autres. Pour aider les Français qui en ont le plus besoin, il y a aussi la piste d'un chèque carburant, un peu comme le chèque énergie. Cela permettrait de cibler les bénéficiaires, mais là encore, pas facile de déterminer qui y aura droit et selon quels critères. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le chef de l'État pousse les ministres concernés à trouver des solutions rapidement. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a appelé en début de semaine les distributeurs à rogner leur marge. Un appel aussitôt rejeté par les principaux intéressés. Il va donc falloir trouver rapidement d'autres solutions.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
C'est une décision hautement symbolique validée par le Parlement aujourd'hui, près de 30 ans après la catastrophe du stade de Furiani en Corse. Il n'y aura plus aucun match de foot professionnel le 5 mai.
Oui, une manière de sacraliser la date du drame qui avait coûté la vie à 19 personnes et fait plus de 2300 blessés. Écoutez, Josefa Giudicelli, elle est présidente du collectif des victimes de Furiani et satisfaite d'avoir enfin eu gain de cause.
C'est l'aboutissement d'un combat. Voilà, notre démarche sur le gel des matchs du 5 mai, elle a été longue et difficile. Donc ce vote a été plus qu'important. Et la loi est venue inscrire dans le marbre le respect pour les victimes. On ne conçoit pas que d'un côté, on soit à la stèle en train de commémorer la plus grande tragédie du sport français et de l'autre côté, qu'on fasse la fête pour une victoire par rapport à un match de foot. Donc le vote de ce matin au Sénat, c'est vraiment une véritable victoire et c'est un soulagement pour les victimes et les familles des victimes.
Voilà, soulagement de la présidente du collectif des victimes de Furiani.
Ce souvenir de Samuel Paty, assassiné il y a presque un an près de son collège de Conflans, Sainte-Honorine. Demain, une journée d'hommage est prévue dans les établissements scolaires.
Oui, écoles, collèges et lycées sont en effet invités à honorer la mémoire de l'enseignant tué par un terroriste tchétchène de 18 ans. Virginie Riva, le ministère de l'Éducation souhaite que chaque établissement propose un temps d'hommage, mais sans aucune directive.
Oui, en réalité, chaque directeur d'établissement organise cet hommage un peu comme il le souhaite. Le ministre invite à un temps de recueillement, mais ça ne prend pas forcément la forme d'une minute de silence. Ça peut être, par exemple, pour les plus petits, les CM2 allumer des bougies ou bien une installation avec des photos de Samuel Paty. Une proviseure à Nice, par exemple, a fait un montage vidéo avec des photos du professeur, des extraits de l'hommage du président de la République. Vidéo qui sera diffusée dans une salle de classe dédiée toute la journée. En cas de perturbation, en revanche, le ministre a été très clair, il y aura des sanctions. Ensuite, le ministère encourage également un temps d'échange pédagogique dès la sixième sur la construction de l'esprit critique et sur le rôle du professeur. Dans un collège à Paris, une proviseure a pris l'initiative d'inviter des avocats pour travailler sur des cas pratiques sur la liberté d'expression. Des enseignants au lycée m'ont dit vouloir insister sur le choc qu'a représenté pour eux l'assassinat de leurs collègues alors que les élèves sont pour beaucoup déjà passés à autre chose.
Virginie Riva, et selon les informations d'Europe 1, la famille de Samuel Paty sera reçue à déjeuner à Matignon samedi.
C'est un pays scandinave, pourtant réputé très calme, mais la Norvège a été frappée de plein fouet par la violence.
Hier, un homme de 37 ans de nationalité danoise converti à l'islam a utilisé un arc et des flèches pour tuer 5 personnes et en blesser 3 autres dans une petite ville à l'ouest d'Oslo. Au CNTR, la piste terroriste semble bel et bien se confirmer.
Oui, les services de sécurité norvégiens évoquent un possible acte terroriste. Une piste également envisagée par la police. Elle a identifié l'auteur présumé des faits, Espen Andersen Bratten, un homme de 37 ans d'origine danoise converti à l'islam. D'après le responsable de la police norvégienne, il était déjà connu des autorités.
Il y a eu des craintes liées à une radicalisation précédemment. Nous n'avions pas eu de signalement en 2021, mais avant.
L'auteur présumé sera présenté demain à un juge en vue de son placement en détention provisoire. D'après la procureure en charge du dossier, il doit aussi passer des examens psychiatriques. Une attaque qui réveille de douloureux souvenirs chez les Norvégiens. Ces 10 dernières années, le pays a connu 2 attentats, dont la double attaque d'Oslo et d'Utøya le 22 juillet 2011, qui a coûté la vie à 77 personnes.
L'assaillant a donc été arrêté hier soir et sera présenté demain à un juge qui devrait le placer en détention provisoire.
Une petite pause et dans un instant, Gérald Darmanin porte plainte contre Philippe Poutou qui affirme que la police tue 15 jeunes tous les ans dans les quartiers populaires. On y revient dans un instant dans le journal de 19h. A tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans le journal de 19h sur Europe 1 avec le journal d'Hélène Zelani. Hélène, des critiques contre la police ne passent pas. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'apprête à déposer plainte contre Philippe Poutou.
Oui, candidat à la présidentielle du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Écoutez ce qu'il disait hier chez nos confrères de France Info.
La police tue, évidemment la police tue. Il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Donc oui, il y a une violence policière. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure.
Des propos insupportables pour Stanislas Godon, il est délégué du syndicat Alliance Police Nationale.
Monsieur Poutou a toujours eu des écarts de langage, mais en tout cas il va falloir que ça cesse, parce que là les collègues en ont vraiment assez de ces affirmations qui sont vraiment inadmissibles. Dire que les policiers tuent dans les quartiers des jeunes, mais je ne sais pas d'où est, sur quelle planète il vit ce monsieur. Il pense que la police elle ne subit rien dans les quartiers, on a 16 policiers blessés par jour, on en a 600 qui sont blessés par arme, donc je crois que c'est ça la réalité qu'il va falloir que monsieur Poutou accepte. Donc si M. Poutou a décidé de lancer sa campagne présidentielle en faisant du buzz sur des affirmations abjectes sur les policiers, eh bien, plutôt que d'avoir rendez-vous avec les électeurs, il aura rendez-vous avec la justice. Et là, nous en appelons à la fermeté des magistrats du siège notamment.
Le délégué du syndicat Alliance Police Nationale dans Europe Midi avec Romain Desarbres. Un terrible meurtre à Agde dans l'Hérault. Une retraitée de 77 ans a été retrouvée décapitée dans sa maison. La piste terroriste n'est pas privilégiée. Selon nos informations, les policiers recherchent activement un suspect vu sur les caméras de la ville.
On en avait beaucoup parlé en juin dernier. L'inconscience d'une jeune femme avait provoqué une chute spectaculaire d'une cinquantaine de coureurs du Tour de France.
Oui, elle avait brandi sa pancarte en empiétant sur la route. Il n'avait pas pu l'éviter. Elle comparaissait en justice aujourd'hui à Brest. Charles Guyard, une audience que vous suiviez pour Europe 1.
Oui, c'est une jeune femme au regard apeuré, à la démarche hésitante qui s'est présentée à la barre. C'est elle qui, le 26 juin dernier, a donc précipité un quart du peloton du Tour de France sur le bitume de la départementale 30 entre Brest et Landerneau. Pause, ralenti, retour en arrière. Sur les écrans de la salle d'audience, on a visionné, disséqué la séquence. Quelques secondes d'images vues et revues dans le monde entier, qui ont d'ailleurs valu à Flavie, déjà fragile psychologiquement, d'être submergée par un torrent d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. C'est arrivé tellement vite, il y avait des cris de joie. Après, j'étais pétrifié, j'ai fait peur à des gens à côté, j'ai blessé des coureurs. C'est une énorme bêtise, articule-t-elle d'une voix chevrotante. Une bêtise qui a donc poussé pour la première fois deux associations de coureurs professionnels à déposer plainte. Elles étaient représentées par Maître Romuald Paléo.
Nous, on est là pour représenter la collectivité des coureurs et puis on compte la représenter vraiment jusqu'au bout. Et s'il faut se représenter devant un tribunal pour dire que ce type de comportement ne doit pas se reproduire, on sera devant un tribunal pour le dire, bien sûr.
Et la procureure de Brest a réclamé 4 mois de prison avec sursis pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Jugement le 9 décembre.
Charles Guyard à Brest pour Europe 1.
Et puis la grande boucle 2022, demandez le programme. Départ le 1er juillet du Danemark, arrivé sur les Champs-Élysées le 24.
Oui, et entre-temps, les coureurs devront parcourir 21 étapes, un tour qui s'annonce particulièrement compliqué en première semaine, Axel May.
Oui, parcours compliqué car varié avec notamment un contre-la-montre inaugural à Copenhague, une étape très exposée au vent, le transfert en avion pour rejoindre le nord de la France, les pavés qui feront leur retour, un petit passage par la Belgique, une arrivée au sommet d'une belle côte à Alonwy, parfaite pour un coureur puncher, un type Julien Alaphilippe. Tout cela la première semaine. Écoutez d'ailleurs ce qu'en pense le double champion du monde.
Une première semaine qui s'annonce palpitante avec différents terrains d'expression. Il y aura du mouvement dans tous les cas, ça c'est sûr. Et pour la première fois qu'on voit le parcours, ça donne envie.
Et pour ce qui est de la montagne, il y aura 5 arrivées au sommet, dont la planche des Belles-Filles dans les Vosges, l'Alpe d'Huez le 14 juillet et Otakam dans les Pyrénées. La veille de l'arrivée à Paris, un contre-la-montre sera organisé du côté de Rocabadour. 3300 km au total d'un parcours qui, contrairement aux deux éditions précédentes, zappe totalement l'ouest de la France.
Et puis Axel, c'était l'autre événement du jour, le retour du Tour de France féminin. Après plus de 10 ans d'absence, tout un symbole, les femmes vont partir de Paris le jour même où les hommes arriveront.
Départ de la Tour Eiffel, arrivée sur les Champs-Élysées juste avant les garçons, puis 7 autres étapes dans l'Est de la France jusqu'à la planche des Belles-Filles le 31 juillet. À 32 ans, Audrey Cordon-Rago était l'une des cyclistes invitées à la présentation à Paris.
C'est un grand pas vers la reconnaissance du cyclisme féminin, c'est ce qu'on attendait depuis des années. J'ai l'impression de faire partie un petit peu des vieilles aujourd'hui, mais on s'est tellement battu, on a tellement grogné pour l'avoir qu'ils ont fini par craquer.
Et l'idée, c'est que cette grande boucle féminine soit à l'équilibre budgétaire dès la première année.
Merci Axel May.
On va faire un petit point à météo avec vous Marlène Duret. Bonsoir Marlène, qu'est-ce qui se passe alors pour la météo ?
Eh bien le temps pour ce vendredi sera calme, sec, lumineux. Le ciel sera pas aussi bleu qu'aujourd'hui, il sera un petit peu brouillé, plus ou moins voilé. L'impression s'annonce quand même plus belle sur la façade atlantique avant de gagner les régions du sud-ouest. Et puis dans les Alpes, là le voile nuageux va plutôt arriver en cours de journée. Des conditions donc calmes, sèches, propices au brouillard le matin, notamment dans le nord-est et le long de la Garonne. Et puis propice aussi à la dégradation de la qualité de l'air, puisqu'il n'y aura pas de vent, donc les polluants ne peuvent pas se disperser, puis l'anticyclone agit un petit peu comme une cloche. Alors il y aura une région qui va se retrouver sous un ciel couvert, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Petite faiblesse de l'anticyclone, donc, avec quelques pluies faibles. Et ces nuages vont avoir tendance à gagner vers la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, le nord de la Lorraine, de la Champagne. Quant aux températures, elles évoluent peu. Ça veut dire qu'on aura encore des gelées au petit jour, dans les campagnes, évidemment. Et puis les maxis, l'après-midi, devraient varier entre 15 et 19 sur la moitié nord jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, en continuant vers le sud, 19 à 22 degrés, 22 par exemple du côté de Carcassonne.
Merci beaucoup. Marlène Duret pour la météo. On se retrouve dans un instant pour Punchline, demain, à 19h, vous serez là demain, Hélène, ou pas ?
Mais bien sûr,
super, demain 19h, ce sera Pierre de Villeneuve qui sera à ma place. Et dans un instant, la suite des débats de Punchline, carnet de campagne, à tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
Et la suite des débats de Punchline ce soir sur Europe 1, on accueille Isabelle Saporta, bonsoir, éditrice,
bonsoir.
Merci d'être là. Françoise Laborde est là, journaliste, bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Maxime Liedo, journaliste et essayiste aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Et Prisca Tetnouveno, porte-parole de La République En Marche, bonsoir,
bonsoir
ma chère Prisca, merci d'être restée avec nous sur Europe 1. L'actualité, on va évidemment évoquer la politique dans un instant, nos carnets de campagne, à droite notamment, mais avant cela on va écouter la prestation de Monsieur Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, qui chez nos confrères de France Info a frappé très fort. Écoutez ce qu'il dit à propos de la police française.
La police tue, évidemment la police tue. Il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Donc oui, il y a une violence policière. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure.
Pas de panique.
Voilà pour Philippe Poutou. La police française tue, Isabelle Saporta. La police française fait 15 morts chez les jeunes dans les quartiers populaires par an, dit cet élu de la République. Gérald Darmanin a décidé de porter plainte contre lui.
Alors, moi, j'ai un vrai sujet sur ces politiques qui
se portent plainte entre eux et qui portent le débat politique sur un point judiciaire, je trouve ça absurde. Mais par contre, c'est vrai qu'au fond, moi je suis quand même très gênée qu'une partie de la gauche considère que de baver sur la police, ce soit un acte de gauche, en fait. Je vois pas pourquoi les quartiers populaires, les personnes les plus précaires, les gens qui vivent dans les banlieues les plus difficiles n'auraient pas besoin d'être protégés. Je pense qu'ils en ont besoin bien plus que les autres. Et je ne vois pas comment, en tapant sur la police en permanence, en fait, on réconcilie, au fond, le peuple français avec, voilà, ce qui sont quand même les sentinelles de la République. Donc je ne comprends pas, en fait, ces discours. Je comprends pas. Et je comprends pas comment la gauche peut penser que c'est d'être de gauche que de matraquer, pardonnez-moi, la police en permanence.
Françoise Laborde, votre réaction.
Mais je crois que vous avez visé juste, c'est-à-dire qu'ils ne représentent absolument pas les milieux populaires. Et la seconde chose, c'est pourquoi on n'est pas étonné d'entendre ça dans la bouche de Philippe Poutou. Je veux dire, ce discours de haine, cet appel, cette haine du policier, avec ce discours récurrent qu'on a entendu, qu'on retrouve chez les indigénistes, chez les compagnons de route. De l'extrême gauche, tout ce discours, les graffitis qui sont mis en dénonçant les familles de flics, les invectives dans certaines manifestations, où participaient d'ailleurs des figures du showbiz, où quelqu'un s'adresse à un policier en lui disant tu trahis ta classe, tu n'as pas honte, honte à toi, et lui crache à la figure. Donc tout ce discours de haine à l'égard de la police, oui, ça fait partie du fonds de commerce de l'extrême gauche, qui n'a pas d'autre programme que de dresser les Français les uns contre les autres, donc les jeunes contre les flics, les riches contre les pauvres, les banlieues contre la ville, demain ça sera les campagnes contre les grandes cités, et derrière il n'y a rien, voilà. Donc c'est consternant, et en même temps on n'est pas étonné, parce que c'est un discours complètement vide qui n'a pour seule obsession que de fracturer le pays, sans doute pour exister un peu plus.
Maxime Liadeau.
Il y a trois points. Déjà, est-ce qu'on doit s'étonner que Philippe Poutou tienne ce genre de propos quand on connaît son passé? La réponse est évidemment non. Est-ce qu'on doit s'étonner en revanche que le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, passe son temps à porter plainte contre des personnes qui pensent différemment que lui? Oui. Je veux dire, si à chaque fois qu'il y a un propos anti-flic, à chaque fois qu'il y a une manifestation anti-flic, à chaque fois qu'il y a un rappeur qui décide d'écrire des propos anti-flic...
C'est pas tout à fait pareil qu'un élu de la République insulte la police et un rappeur.
Il a déjà porté plainte contre des organisations qui organisaient des festivals où il y avait des rappeurs qui, dans deux ou trois chansons, tenaient des propos contre la police, etc. Est-ce que c'est son rôle? Je veux dire, le rôle...
Oui, ça tombe sur le coup de la loi.
C'est que ça tombe dans le coup de la loi. Formidable, il y a des syndicats policiers pour le faire. Le ministre, bien sûr que si, le ministre de l'Intérieur n'a pas pour but d'être le ministre des syndicats. Il a pour but d'être déjà, et on l'a un peu tendance à l'oublier dans ce pays, d'être le ministre pour préserver les libertés publiques et fondamentales. Donc ça, c'est la première chose. Ben oui, mais on ne peut pas. Et ensuite, on ne peut pas en permanence, notamment quand une ancienne ministre de la Santé est mise en examen, aller sur tous les plateaux en dénonçant la judiciarisation du débat public et se plaindre, quand à chaque propos qui nous déplaît, on porte plainte. Donc j'aimerais un tout petit peu qu'on soit honnête intellectuellement et qu'on fasse preuve de nuance. Je sais que l'époque n'a pas beaucoup
C'était votre premier point, Maxime. Il y en a deux autres.
Non, ah bon, ouf. J'ai condensé.
Ouf,
quand j'ai vu
très bien.
Se lever, j'ai condensé.
Prisca Thévenot, vous voulez lui répondre?
Oui, je voulais répondre tout simplement sur la première phrase, qui est du deuxième point, qui est de dire que je suis.
Je vois en plus qu'on a pris des notes, donc mon propos est un minimum structuré, ça me fait
bien
ça,
sûr,
plaisir.
Et puis je prends très au sérieux, bien sûr. Non, mais le premier point qui était de dire, et qui est de dire, le ministre porte plainte contre ceux qui ne pensent pas comme lui. Mais c'est pas du tout ça, la lecture est pas la bonne. Le ministre de l'Intérieur porte plainte contre ceux qui s'en prennent à nos institutions, à notre République et à celles et ceux qui nous protègent au quotidien. Qu'un élu de la République, c'est pas n'importe qui, monsieur Poutou, c'est reste un élu de la République, vienne comme ça salir éhontément, dire la police tue, les mots ont un sens, surtout à l'heure où on voit une violence verbale et extrêmement dangereuse dans la société, cette violence se traduit souvent par des actes, je trouve que oui, il faut condamner et il faut porter plainte.
Le manque de nuance que je dénonçais, pardonnez-moi, que dire et de faire.
Non, c'est du côté de Poutou, pardon.
Non, mais
la police tue.
Constater un manque de nuance d'une part ne veut pas dire que la nuance a été respectée d'autre part. Quand Philippe Poutou dit que la police tue. Oui, ben d'accord, c'est excessif, mais une fois de plus, c'est une généralité, ça caractérise M. Poutou. Maintenant, est-ce que la police a déjà tué? Oui, voilà, il y a eu des violences policières. Est-ce que c'était volontaire? Sans doute pas. Est-ce que des policiers qui n'étaient pas assez formés... Oui, les mots ont un sens, c'est exactement ce que je viens de dire, mais merci. Mais la police tue, elle a peut-être fait accidentellement, elle a fait par mégarde dans des contextes compliqués, dans des contextes difficiles, sans doute. Et c'est pour ça qu'il y a une justice, c'est pour ça qu'il y a des enquêteurs qui font le travail de savoir la part du vrai du faux. Évidemment que c'est excessif, mais on peut pas non plus nier qu'il y a des policiers qui, hélas,
mais
dans l'exercice de leur fonction,
ont amené la mort. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous trouvez que, en effet, Darmanin n'aurait pas dû porter plainte, parce que dans votre sous-discours, il y a l'idée que c'est une opinion, ça n'est pas un délit, ça n'est pas un propos qui tombe sous le coup de la loi, c'est une opinion, que cette opinion se défend, parce qu'il y a des faits. Alors qu'il y ait en effet des bavures, qu'il y ait en effet des flics ne soient pas exemplaires, voilà, qu'en effet il y ait de temps en temps des enquêtes de la police, des polices pour voir ce qui s'est passé... tout le monde en convient, je veux dire, c'est pas la question.
Ah bah là, si, mais non, là, on est en train de dire que jamais il y a de la police, jamais.
Excusez-moi, c'est vous qui déformez nos propos.
Non,
j'ai jamais dit ça. On en convient, c'est pas la question. Le propos de dire la police tue, c'est une essentialisation d'une fonction régalienne d'une organisation nationale, comme si, en effet, il y avait une consigne qui avait été donnée à des forces de police de s'attaquer aux populations civiles. C'est pas du tout la même chose.
Et pas n'importe quelle population civile.
Et précisément,
les jeunes dans les quartiers populaires.
Voilà.
Isabelle
Saporta. Donc, on n'est pas du tout dans la même chose.
Je vous en prie. Écoutez, non, moi, je reste persuadée que le débat politique reste du débat politique et on doit avoir des joutes oratoires, on a l'extrême gauche, l'extrême droite, des gens qui sont excessifs, des discours qui sont complètement, peut-être, qui nous paraissent ahurissants. Mais je pense que, si vous voulez, je trouve, au fond, que la disqualification du discours de l'autre par l'action judiciaire n'est pas... Enfin, moi, je trouve que c'est pas à la hauteur. Donc, j'ai un vrai problème là-dessus. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est plus capable aujourd'hui de débattre et de combattre...
Et de rappeler les faits,
et par des joutes oratoires, et qu'on est toujours obligé de passer par, au fond, la justice. Moi, ça me gêne. On est toujours en train de dire, oui, mais aujourd'hui, il y a énormément de violences verbales.
Quand c'est Zemmour, ça gêne pas, en revanche.
Pardon ?
Quand c'est Éric Zemmour...
Bizarrement.
Ah non, mais moi, si vous voulez, je pense que vraiment combattre ses ennemis politiques par une action judiciaire en permanence, c'est vraiment la fin de la politique. Je veux dire, c'est la fin du débat public. Donc, non, mais vraiment. Et par ailleurs, quand on est un ministre aussi important que peut l'être Monsieur Darmanin, si vous voulez, je trouve que ça signe son impuissance.
J'aimerais juste qu'on remette le contexte. Est-ce que Monsieur Poutou est un ennemi ou un opposant politique à Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur? Pas du tout. Je pense qu'il faut remettre dans son contexte.
C'est un opposant politique.
Je vois pas en quoi Monsieur Poutou, avec tout le respect que je lui dois, est un opposant et que Gérald Darmanin a extrêmement peur de Monsieur Poutou d'un point de vue politique. Non, là, il s'agit, encore une fois, je pense qu'il faut le rappeler très simplement, dire la police tue, ça veut dire quelque chose, surtout dans le contexte dans lequel ça a été dit, la police tue dans les banlieues.
Et ça change
vous gardez votre argument, Françoise, vous le donnez dans un instant, on fait une toute petite pause. Et justement, nos auditeurs sont en haleine, ils vont attendre votre argument. À tout de suite dans Punchline.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et comme vous l'entendez, le débat a continué pendant la pause pub de façon très vigoureuse. Alors Françoise Laborde, on évoquait le cas de Philippe Poutou qui a dit que la police française tuait notamment dans les quartiers populaires. On a un débat sur le fait, est-ce que le ministre de l'Intérieur devait ou non porter plainte? Vous pensez quoi?
À mon avis, il ne pouvait pas faire autrement. Je veux dire. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On n'est pas dans le débat politique. On n'est pas dans la joute oratoire. On n'est pas dans le propos où, en effet, on s'invective, on se dit des mots d'oiseau. Là, on est dans une déclaration qui arrive de nulle part, bon, si, de M. Poutou, et qui dit la police tue. Et évidemment, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur de le rappeler à l'ordre, de rappeler le règlement et de porter plainte. Que n'aurait-on dit s'il l'avait pas fait. Alors, en plus, on sait que les policiers sont suffisamment dans un malaise profond aujourd'hui, sont désignés comme cibles par énormément d'univers, pour qu'au moins le ministre de l'Intérieur manifeste sa solidarité à leur égard.
Je suis sûre, chère Françoise, qu'il y a eu une... Je ne vais pas laisser finir votre phrase, pardon. Que Jean-Luc Mélenchon était inquiété pour les propos qu'il a tenus sur les policiers, des barbares qui mériteraient... Voilà. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu une plainte à l'époque du ministre de l'Intérieur contre Jean-Luc Mélenchon.
Je ne peux pas répondre non plus.
Voilà. Non. Mais ensuite... La question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on attend du ministre de l'Intérieur? C'est aussi un peu le problème, à mon sens, de
défendre les policiers, non?
Non, mais qu'ils défendent les policiers, c'est un fait. Qu'ils répondent, on va dire, à bras ouverts à chaque demande des syndicats, c'est une autre question. Ce que je reproche, à mon sens, c'est qu'on a tellement vu des tweets en disant qu'ils condamnaient, en disant qu'il fallait absolument se déplacer, en disant qu'on ne céderait pas. Le problème, c'est que ça se répète à peu près toutes les deux semaines. Donc, si vous voulez, la régularité atténue un tout petit peu la force de ce tweet. Et donc, on en est à se dire, est-ce que finalement, les propos, ce genre d'acte, ça sert en quelque chose? Même encore, on est quand même un ministre de l'Intérieur qui se vante.
Oui, au-delà du tweet.
Une fois de plus, on a déjà fait le débat précédemment de la judiciarisation du débat public, qui, à mon sens, n'est pas pertinent. Et une fois de plus, on est quand même un ministre de l'Intérieur qui se vante de la baisse des cambriolages en période de confinement. Donc, si vous voulez, non, mais le tout rassemblé forme une. Non, mais vous voyez.
C'est un concours de blagues.
Alors attendez, Prisca Thévenot voulait répondre et après je passe la parole à Isabelle Saporta.
Non, ça reste quand même réducteur. Venir juger de l'action de Gérald Darmanin sur la base de son Twitter, je trouve que c'est pas très honnête.
Non,
excusez-moi.
La sécurité, c'est factuel.
Les 10 000 fonctionnaires de police embauchés en plus, oui. Le budget de la police. Attendez, si, ils sont sur le terrain. Ouais. Je vous invite à y aller, justement, à lâcher votre téléphone et pas regarder Twitter, allez voir ce qui s'y passe.
Oui,
Sur tous les moyens matériels, humains, qui ont été mis en place, c'est du concret. Donc, je pense que oui, vous pouvez commencer à regarder et à juger de l'action du politique sur le Twitter, mais je pense que c'est un peu réducteur et puis un peu malhonnête.
Alors, Isabelle Saporta.
Là, vous pouvez pas attaquer Maxime Nieddeau là-dessus, alors qu'on voit bien que c'est un acte de communication de la part de Gérald Darmanin. Donc, et moi, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Laborde, parce que vous avez raison. Quand vous dites, au fond, il le fait parce que c'est ce qu'attend tout le monde. Moi, c'est ça qui me gêne aujourd'hui avec la politique, au fond. C'est-à-dire qu'ils sont tellement angoissés à l'idée de pas réagir comme il faudrait, au moment où il faudrait, à l'injonction de Twitter, l'injonction des télés en continu, que effectivement ils sont là dans des actes attendus qui, Maxime Nieddeau a raison, perdent de leur force. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers, ils rebondissent, ils tweetent, ils vont sur place, ils communiquent. Là, on est dans une hyper-judiciarisation, effectivement, de la politique. Moi, je suis désolée, mais au fond, on attend des actes et des actions, vous aviez raison, sur le terrain.
Paradoxe pousse le raisonnement un peu dans l'absurde. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur, point final. Après, on peut toujours dire, oui, mais pendant le confinement, il a fait des déclarations, c'est pas la question. Aujourd'hui, on a une police qui est en effet malheureuse, qui est souvent prise pour cible, qui est souvent attaquée. Je pense que c'est le rôle du ministre de l'Intérieur. De défendre la police et qu'il est dans son rôle et qu'il fait ce qu'il peut avec ses moyens.
Christophe Castaner n'avait pas porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Il avait dénoncé une insulte inacceptable, il n'avait pas porté plainte contre Mélenchon.
On a tout fait pour les policiers. Christophe Castaner a baissé le temps de formation. Mais ça, c'est
allez, un dernier mot, Isabelle, après on avance.
Le mal-être des policiers, moi j'ai la chance et l'honneur d'en publier plusieurs, dont Abdoulaye Kanté. Je veux dire, le mal-être des policiers, il ne sera pas résolu parce que M. Darmanin aura porté plainte. Il y a un moment, soit on est capable de changer l'état d'esprit des jeunes dans les banlieues qui, malgré tout, sont plutôt sur la ligne de Poutou, et faire en sorte que la méritocratie fonctionne. Capable de prendre un petit peu le tableau général des choses, soit on voit toujours les choses par le petit bout de la lorgnette. Donc si on pense qu'on va réconcilier les jeunes et la police en faisant un procès à M. Poutou, on se plante. Voilà,
et pendant ce temps-là, ma chère Isabelle, ma chère Françoise, Maxime, ma chère Prisca, le président de la République... Il joue au football, écoutez.
Pénalty en faveur du Variété Club de France. Emmanuel Macron s'apprête à le tirer. Et but ! But !
Voilà, pour ce but d'Emmanuel Macron, il jouait évidemment pour une bonne cause, une œuvre caritative, les pièces jaunes, présidée évidemment par Brigitte Macron et en faveur des enfants hospitalisés. C'est une bonne chose, Isabelle Saporta, que le président allait mouiller le maillot, mettre les crampons, fasse une belle opération de com' pour récolter des sous.
Moi, je le trouve très fort, le président, pour faire des bonnes opérations de com'. On peut pas dire le contraire. Il a énormément de talent. Là, moi, ce qui me fascine le plus, ce dont on discutait avec Maxime Nieddeau avant de rentrer dans ce studio, c'est au fond que les chaînes d'infos en fassent un événement national et interrompent
pas toutes,
le
ma
reste
chère,
de l'info.
Pas toutes. Vous n'avez pas beaucoup regardé la mienne. Vous n'avez pas regardé ces news,
peut-être. Pas regardé la vôtre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc qui est quand même inouï. Et donc, vous vous retrouvez avec tous les éditorialistes politiques qui deviennent... commentateur sportif d'Emmanuel Macron, de comment il tire ou il tire pas son pénalty. Donc ça, je trouve ça atterrant. Hein. Mais en tout cas, c'est quand même malgré tout la force de Macron. Il fait McFly et Carlito pour parler aux jeunes. Là, il se met en short et en fait, BFM est en continu sur ses crampons. Écoutez, c'est fascinant.
On a bien des anciens commentateurs sportifs qui sont devenus des animateurs de plateaux politiques.
Et ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas du tout du mépris social de ma part.
On peut faire des analyses d'images comme ça. Ce que je pense, c'est qu'il faut retenir, c'est que c'est pour une opération qui est extrêmement importante, qui s'appelle les pièges jaunes, qui nous dépasse et qui dépasse le sujet du politique, du partisan. Et ensuite, on peut effectivement venir comparer ça à McFly et Carlito sans remettre dans son contexte. Mais rappelons quel était l'objet de McFly et Carlito. C'était de rappeler l'importance des gestes barrières, du port du masque et qu'on était toujours en crise sanitaire.
Et là, preuve en est, c'est
on peut dire aussi les choses franchement. Et preuve en est, c'est que ça a fonctionné auprès des jeunes. Donc après, on peut tout critiquer, mais je pense qu'il faut.
Alors, Maxime Nedo, un petit mot sur le match de foot.
Oui, non, c'est amusant. Maintenant, je me mets quand même 25 secondes à la place du gardien. La vraie question étant de savoir est-ce que j'ai vraiment le droit d'arrêter ce pénalty ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir le fils ?
Est-ce que je peux bousculer le président ?
Je suis pas certain. C'est à mon sens la seule vraie question. Est-ce que ce but est vraiment mérité ?
Même les gars sur le terrain, est-ce qu'on peut le bousculer, lui faire un tacle ?
Est-ce qu'on peut faire un tacle au président ?
Françoise Laborde.
Je n'ai aucune opinion à ce sujet.
Mais si, vous en avez surtout.
Je ne m'intéresse pas au football.
Non, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause.
Donc je n'ai aucune opinion là-dessus. Mais oui, c'est très bien. C'est mieux en tout cas que l'époque où les candidats allaient chanter dans les émissions de variété.
Ah, il y a eu ça, ça
ah, vous rappelez pas ça?
Ah non, François, c'était quand?
Je pense que Lionel Jospin a chanté Le Temps des Cerises.
Ah oui, c'est vrai.
Dans une émission de Jacques Martin. Pardon, c'est mon côté un peu grand-mère du
pas. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Donc je pense qu'il y a un progrès de ce point de vue.
Est-ce que le déclassement date de Lionel Jospin qui chante dans une émission de variété?
Je ne sais pas.
Un prochain livre à écrire.
Valéry Giscard d'Estaing jouait de l'accordéon, alors on peut remonter à encore un peu.
Chance non plus.
Oui. Prisca Tevno, un tout petit mot sur.
Je ne chanterai pas. Il ne chantera pas, nous ne chanterons pas.
Pourquoi ?
Mais pourquoi ?
C'est nul ?
Non, il y a bon,
la paix des oreilles. C'est
formidablement bien, on se souvient tous de notes aiguës pendant les meetings pour préparer la salle. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on veuille forcément atteindre de nouvelles images en niveau gêne.
On va faire une petite pause, on va s'intéresser à la politique, on reviendra à la campagne électorale. Y aura-t-il un rapprochement entre Marine Le Pen et Éric Zemmour ? La réponse dans un instant.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec Isabelle Saporta, Françoise Laborde, Maxime Liedo et Prisca Thévenot de La République En Marche. Allez, un petit mot de politique quand même, évidemment, avec ce rapprochement, est-ce que c'en est un, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. On est avec Victor Chabert, bonsoir Victor. Visiblement, l'ex-patronne du Rassemblement National souhaite vouloir calmer le jeu.
Oui, Laurence, après les attaques de l'état-major du Rassemblement National contre Éric Zemmour, Marine Le Pen cherche désormais l'apaisement et ce matin sur RTL, elle appelait au rassemblement.
Bon, je connais Éric et je pense que encore une fois, pour une partie qui est une partie importante, qui est l'immigration et l'insécurité, nous faisons le même constat. Donc nous serons amenés à un moment donné ou à un autre à faire le rassemblement, parce que quand on aime la France, on se doit d'agir et d'œuvrer pour le rassemblement.
Le polémiste, invité de CNews quelques minutes plus tard, lui a répondu.
Vous savez, c'est des tactiques politiques. Moi, je ne suis pas dans la tactique politique. Un coup, on m'attaque. Un coup, on m'aime. Un coup, on dit il est odieux. Le lendemain, on dit il faut se rassembler. Moi, je ne suis pas dans ces changements permanents de pied. Moi, je suis ma route.
Dans les sondages, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont désormais dans un mouchoir de poche. 14% pour le polémiste, 16% pour la candidate du Rassemblement National. Difficile pour elle, après une chute de plus de 10 points en quelques mois, de trouver la bonne tactique face à l'émergence inattendue d'une candidature sur sa droite.
Françoise Laborde.
Mais, franchement, moi je ne comprends pas pourquoi elle fait ça maintenant. Enfin, c'est quand même se tirer une balle dans le pied. Ça ne marchera pas. Enfin, il n'y aura jamais de rassemblement.
Elle a plus de pied, de toute façon.
Oui, celui qui lui a resté éventuellement. Mais il n'y aura pas de rassemblement parce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui disparaisse. Zemmour ne va pas s'effacer devant Marine Le Pen. Et là, elle fait directement un aveu d'impuissance en disant on va peut-être se rapprocher. Ben, non, ça n'existe pas. Donc, je ne comprends pas la tactique, là, vraiment.
Maxime Liedo ?
C'est le meilleur moyen d'encourager ceux qui hésitaient entre Zemmour et elle à se précipiter chez Éric Zemmour. Dans Le Point, il y a un sondage fascinant qui explique que 50% des des sympathisants LR veulent partir chez Zemmour et que 54% du RN aimerait également partir chez Zemmour. Donc dans ce cas-là, il y a 54% qui sont déjà en train de faire leur valise. Donc ça, c'est un premier sujet. Et ensuite, ça traduit quand même un peu le malaise Zemmour au sein des politiques. LR, on n'en parle même pas. Maintenant qu'il y a Édouard Philippe, on se demande quel est l'intérêt d'LR, surtout quand on a des cadres qui disent largement préférer Éric Zemmour à Emmanuel Macron en cas de second tour avec cette configuration. Et ensuite, en termes d'idées, je veux dire, il y avait encore quelques éléments qui pouvaient, séparer Marine Le Pen d'Éric Zemmour. Et aujourd'hui, on sait que sa base électorale, c'est en quelque sorte la France rurale, la France ouvrière. Et elle préfère s'écharper avec un polémiste qui n'est pas encore candidat sur l'identité, sur l'immigration, alors qu'il y a toute une frange actuellement de la population qui est en train de crever parce qu'il y a des taxes sur l'essence qui leur empêchent de faire un plein. Ils n'ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas de quoi se nourrir suffisamment, ils ont du mal à aller au travail, on leur donne un chèque énergie mais on ne sait pas si ça va les aider à finir le mois. Il y a une France qui est en train de se désindustrialiser au point qu'Emmanuel Macron dise que c'est important, c'est pour vous dire l'importance du sujet. Donc vous voyez, il y a une frange de la population qui souffre, qui n'en a pas tout de suite quelque chose à faire de l'identité française, mais on ne leur parle jamais.
Isabelle Saporta ?
Non, mais moi je trouve ça, c'est vraiment un acte, vous avez raison Madame Laborde, c'est vraiment un acte de désespoir de la part de Marine Le Pen. Donc moi je dois dire que moi non plus, je ne comprends pas pourquoi elle le fait, je ne comprends pas comment elle peut penser, après avoir perdu autant de points, que de tendre la main à Zemmour qui lui est sur une phase ascendante, ça va marcher. On voit bien que lui effectivement va rester entre guillemets droit dans ses bottes. Moi je suis plus nuancée que vous Maxime sur la question des classes populaires. Je pense... en fait, que Éric Zemmour, dont on pensait qu'il ne s'adresserait au fond que et il n'arriverait à plaire qu'à des CSP+, etc., etc., plaît énormément aux classes populaires.
Aussi, bien sûr.
Parce que, et là, c'est quand même quelque chose qu'ont oublié toute une partie de nos politiques, c'est que les classes populaires, comme tout le monde, aiment qu'on leur parle bien, qu'on utilise des mots dont ils sont fiers, qu'on fasse référence à l'histoire et qu'on fasse référence à une certaine identité. Et au fond, comme Jaurès, relisons les discours de Jaurès qui étaient incroyables, on a aujourd'hui un narratif extrêmement fort, que je ne partage pas, comme vous vous en doutez, de la part d'Éric Zemmour. Et en face, il n'y a pas de narratif aussi fort. Il n'y en a pas à La République En Marche, parce que de toute façon, on est dans quelque chose, effectivement, qui est un peu de l'ordre de la pop culture. Il devrait y en avoir, et là, on va m'accuser, effectivement, d'être dans un... de défendre mon compagnon Yannick Jadot, mais effectivement, chez les écologistes, parce que là, c'est effectivement la fin de... On est dans une période où, au fond, si on ne se saisit pas de l'urgence climatique, c'est la fin, effectivement, de la planète. Et aujourd'hui, pour moi, les deux seuls narratifs qui s'opposent, c'est effectivement le narratif écologique et de l'autre côté, ce narratif régressif, nostalgique, d'extrême droite, qu'incarne avec beaucoup de talent
Éric
Zemmour.
Alors, Prisca Thévenot.
Alors, moi, je vais être
le parti pop culture.
Non, mais oui, bon, si vous voulez.
Mais tout ça ne fait pas les affaires d'Emmanuel Macron, au fond, cette division entre Le Pen et Zemmour.
Ben, en tout cas, elle ne fait pas l'affaire du débat politique, je ne trouve pas. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, entre ces deux narratifs qui existent, d'un côté les extrêmes et puis de l'autre côté effectivement très raccourci le mouvement écologiste, et bien effectivement au milieu il n'y a pas de narratif, il y a des actes, il y a des actions. Effectivement il y a de grands défis à relever, il y avait de grands challenges à relever. Je ne dis pas que tout a été fait, mais une bonne partie a été pris en compte et a été menée. Sur le sujet du pouvoir d'achat, on va être très clair, sur les premières années du quinquennat, 5,8% de pouvoir d'achat en plus. Sur la partie de la crise sanitaire, effectivement, pas autant, mais ça continue à augmenter. Là, vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas concerné les classes populaires. Eh bien, si, les études montrent, vous aimez bien citer les études montrent que 10% des classes populaires ont bénéficié le plus de ces hausses de pouvoir d'achat. Et là, vous allez me dire encore à nouveau, oui, mais on a aujourd'hui le problème de l'énergie. Vous avez raison, on a un sujet de l'énergie. Et c'est d'autant plus important d'aujourd'hui travailler cette indépendance énergétique dont le président a commencé à travailler via le plan français. On se relance et qui continue à travailler avec les annonces qui ont été faites mardi. Donc moi ce que je veux c'est, on peut continuer à se raconter de belles histoires, mais c'est ignorer la situation dans laquelle est le pays aujourd'hui. Il faut des actes aujourd'hui.
Il avait dit une seule chose sur l'écologie, Macron, c'était qu'il allait interdire le glyphosate, c'est toujours pas fait. Donc si on prend les actes de Macron, par exemple, sur l'écologie...
Grâce à qui est-ce qu'on mange tous les jours?
Totalement régressive.
On mange grâce aux agriculteurs. Et donc il faut leur permettre...
Vous savez combien ils gagnent par mois, les agriculteurs?
Et donc vous voulez vous voulez tout de suite faire un gros cataclysme pour les agriculteurs.
Ne dites pas que l'agriculture productiviste fait bien vivre les agriculteurs. Non,
et donc, il faut leur permettre.
Parti de Zemmour, on est à l'agriculture. On a fait un petit peu de chemin.
Parce que, soi-disant, que les faits et les actes seraient du côté de Macron, si vous êtes tellement tranquille là-dessus, je ne vois pas pourquoi vous êtes autant sur la défensive.
Il ne s'agit pas d'être tranquille. Il s'agit d'expliquer et d'être sur des faits.
Effectivement, Bruno Le Maire, vous avez raison. Bruno Le Maire, ministre de droite, a été irréprochable pendant le Covid et a arrosé les entreprises françaises comme il fallait les arroser. Vous avez parfaitement raison, vos ministres de droite se sont bien comportés.
Donc on aurait dû les laisser. Ça veut dire qu'on aurait dû les laisser mourir.
Et après on parle des LR.
Juste pour rappeler, je ne vais pas rentrer dans les débats programmatiques de mes deux voisines, la préoccupation majeure aujourd'hui, c'est en effet la hausse de l'énergie, l'essence, le pétrole, le gaz, etc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un a utilisé cette image, c'est comme la météo ressentie est réelle. C'est-à-dire que même si en effet une petite progression du pouvoir d'achat, on a quand même l'impression que ça baisse parce qu'on voit passer les factures qui augmentent. Donc, la météo ressentie, c'est que ça monte et qu'il va faire froid et qu'on va payer de plus en plus cher. Et ça, ça pèse beaucoup dans l'opinion publique, ça pèse beaucoup dans les préoccupations des Français. Et il y a quand même l'idée de, oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper un peu cette problématique en faisant davantage de stocks, en négociant, je ne sais pas, les prix du gaz un peu mieux avec les Russes, pourquoi pas. Bref, en anticipant un certain nombre de choses.
Ça marche pas comme ça,
en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ou les stocks, tout simplement. Mais on sait faire, on sait stocker. Mais ça, c'est une question qui va être au cœur de la campagne, me semble-t-il, et qu'on a tendance un peu à oublier parce que la question du pouvoir d'achat et la question, en effet, des prix des matières premières du quotidien, c'est ça qui a fait émerger quand même les gilets jaunes. Et c'est pas si loin.
Pas loin. Un tout petit mot, Maxime Nidou. Juste sur les LR, Valérie Pécresse va reprendre sa carte aux Républicains. Elle avait quitté le parti en 2018, Xavier Bertrand en 2017. Xavier Bertrand ne reprendra pas sa carte. Waouh!
Ma malaise supplémentaire chez les Républicains, parce qu'on a quand même les deux personnes qui sont en train de soi-disant se présenter pour le parti, n'ont plus leur carte au parti. Donc là, c'est un sujet, surtout que Xavier Bertrand a dit ne pas la vouloir. Donc en fait, le seul homme qui est actuellement en train d'émerger, notamment chez les militants, or ça tombe bien, c'est un tout petit peu qui vote, c'est Michel Barnier, qui est jugé accessoirement comme l'homme le plus sincère en interne. Donc ça vous laisse envisager la campagne qui va se faire jusqu'en décembre.
Voilà, écoutez, merci pour ce mot de la fin. Peut-être encore un petit mot, j'ai encore une petite minute finalement.
Je trouve que Michel Barnier était incroyable quand il s'est occupé du Brexit, etc. Je suis complètement effondrée de l'entendre aujourd'hui avoir des discours sur l'immigration qui me paraissent complètement délirants. Mais c'est surtout que si c'est lui à 8%, enfin, on voit pas ce qui va rester des LR après, pardon, quoi. Enfin, donc ils iront vers Horizons, comme vous dites, Horizon de pluriel Edouard de Monsieur Philippe et vers Zemmour, quoi, parce que il y aura plus de LR. Bah, s'ils ont envie de mourir, écoutez, en même temps, c'est un choix. Hein.
Bon, écoutez, le débat va se poursuivre en tout cas tout au long de cette campagne qui démarre. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce Punchline. Lundi à 19h, notre invité spécial, ce sera Valérie Pécresse. Pour un grand oral de Punchline, on va décrypter ses propositions, son programme. On le fera avec tous les candidats de cette primaire de la droite, parce qu'il faut bien appeler ça une primaire de la droite. Et puis on espère que tous les autres candidats de tous les partis viendront ici, dans Punchline, sur Europe 1. Merci à vous tous d'avoir participé à notre émission. Bonne soirée à vous sur Europe 1. Tout de suite, c'est notre ami Mouloud Achour pour Verven Underground. Je l'ai bien dit. Bonne soirée.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.